Ce message s'intitule « Questions et réponses sur le Saint-Esprit ».
The gospel that's given to them is a faith gospel, not a works at all. See? Like I said last night, when the Holy Ghost fell at Pentecost, when he went out to the Jews, Acts 19:5, they had to lay hands on them, but they received it. And when they went down to the Samaritans, they had to lay hands on them. But when they come to the Gentiles at Cornelius' house, while Peter spake these words, no laying on of hands, when the little girl died, Jairus' daughter, the priest, said, come lay hands on
them. Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
Greek, actually, what she was. When Jesus said to her, said, it's not meet for me to take the children's bread and give it to the dogs. She said, that's true, Lord. But the dogs under the table eat the children's crumbs. He said, for this saying, the devil's left your daughter.
Amen.
Say good things then. Say something good about somebody. Talk about Jesus.
Amen.
Say something loyal, something real. That's the way to get rid of devils.
Amen.
He never said, he never prayed for the girl. He never said one thing about her being healed. He just said, for this saying. Had he right the other day. She didn't ask for nothing. She's just sitting there, but she said the right thing. Which pleased the Holy Spirit, and the Holy Spirit spoke back and said, Hattie, ask anything that you will. Whatever you got and you want, find out whether this is real or not. Ask anything. The healing of her little crippled sister sitting there all drawn up, $10,000 to keep her from digging on them hills over there, the youth restored to her well-run-down body, whatever you want to ask, you ask it right now. If it don't come and give it to you right now, then I'm a false prophet. That's something, isn't it?
Yes. Amen.
Jesus said, say to this mountain, you've heard about what's been taking place. That's the ministry that we're entering into. We're way up the road now. Soon the coming of the Lord Jesus. We've got to have rapturing faith in a church that can be changed in a moment, in a twinkling of an eye, to go out, or we'll not go. But don't worry. It'll be there.
Amen.
It'll be there. And when the power of this church rises, it'll bring its brethren. The power of that church rises to bring its brethren. The power of that church will bring the other brethren. Then there'll be a general resurrection. We're looking forward to it. Now, don't forget, prayer cards in the morning at 8:00.
Après la soirée d'hier, nous sommes tous remplis. Aujourd'hui, j'ai reçu de bonnes nouvelles de beaucoup de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, et nous en sommes très heureux. Nous sommes heureux d'avoir le frère Graham avec nous ce soir, un de nos associés du tabernacle ici, le pasteur de l'Église de la Sainteté à Utica. Et le frère Jackson, je crois, qu'il était ici hier soir. Quelqu'un a dit qu'il était ici dans l'auditoire ce soir. Oui, je vois maintenant le frère Jackson là-bas. Et frère Raddle, est-il ici ce soir? C'est un de nos associés ici sur la route numéro 62. Nous sommes heureux de leur présence. Oh, frère Pat et tous ces autres frères qui sont dans l'auditoire, nous sommes heureux de vous avoir tous ici ce soir. Maintenant, si je voulais justifier cela, je ferais venir ici quelques-uns de ces bons prédicateurs pour qu'ils vous parlent, parce que je suis enroué d'avoir parlé si longtemps hier soir. Or, c'est ma femme qui me corrige. Vous savez, mes frères, ce que je veux dire. Elle m'a dit que les gens qui étaient dans le fond hier soir ne pouvaient m'entendre parce que je parlais là-dedans. Et maintenant, avant de commencer, je vais essayer quelque chose. Maintenant, je me demande si cela va mieux. Vous là-bas dans le fond, est-ce que c'est mieux ou ceci est-il meilleur? Ou ça? Maintenant, chérie, pour une fois, je marque un point contre toi. Ainsi donc, ils disent que c'est mieux. Bien. Oh, c'est une femme. Voilà qui est bien, car il y a longtemps que je n'avais pu marquer de point contre elle. Car d'habitude, c'est elle qui a raison. Eh bien, nous avons eu certainement de bons moments pendant ces 3 soirs de réunion. Moi, en tout cas. Et puis les bandes enregistrées, toutes, excepté celle d'hier soir, j'ai appelé frère Gould et lui ai dit de venir prendre la bande pour le tabernacle. Mais il est arrivé, à ce que j'ai compris, que Billy Paul avait sa voiture et qu'il était déjà parti. Aussi, autant que je sache, la bande n'a pas été emportée. Ainsi, il nous manque celle-là. J'aurais aimé la garder dans l'église pour le bien de l'église, afin que les gens sachent ce que nous croyons. Si je peux terminer à temps avec les questions, je vous parlerai ce soir de la grande conférence. Et puis demain matin, nous aurons un service de guérison. Nous allons prier pour les malades, mais nous ne pouvons distribuer ou simplement dire « Maintenant, c'est vous que je vais prendre et vous ». Ce ne serait pas juste. Mais nous distribuons un certain nombre de cartes et j'en appelle certaines pour que ceux qui les ont viennent sur le podium. Et puis, si le Saint-Esprit commence à révéler, il va dans l'auditoire et désigne là des personnes pour le service de guérison. Et alors, demain matin, je parlerai, si Dieu le veut, immédiatement avant le service de guérison. Je vois ma femme qui rit. Chérie, m'entends-tu? Oh, tu m'entends. Bon, très bien. Elle est assise là-bas dans le fond, et si elle ne m'entend pas, elle secoue la tête. Je n'entends pas, je n'entends pas. Alors, demain soir, il y aura un service d'évangélisation et un service de baptême dans l'eau. Dès que j'aurai fini de prêcher, demain soir, nous ouvrirons les rideaux et nous aurons des baptêmes dans l'eau ici demain soir. Si Dieu le veut, je voudrais demain matin, ou plutôt demain soir, je parlerai sur le sujet « Un signe a été donné ». Et alors, si nous sommes d'ici mercredi soir, si le Seigneur me permet d'être ici mercredi soir, je veux parler sur le sujet « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer ». Ce sera ici la veille de Noël. Et puis, immédiatement après Noël, il y a la semaine des vacances de Noël. C'est alors que nous prenons toutes les lettres. Frère Mercier, les autres frères les rassemblent généralement toutes à ce moment. Nous les étalons toutes et nous prions sur ces lettres et demandons au Seigneur de nous conduire à l'endroit dans le monde où nous devrons aller. Les hommes d'affaires chrétiens ont projeté toute une série de réunions en allant premièrement pour leur conférence en Floride, puis de là à Kingston, puis à Haïti, et de descendre à Porto Rico, d'aller en Amérique du Sud et de revenir par le Mexique. Mais le Seigneur semble me conduire en Norvège. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez le petit livre appelé « Un homme envoyé de Dieu » ? C'est la plus grande publication religieuse en Norvège. Pensez à ce que le Seigneur a fait là-bas. Et quand j'y étais, ils ne voulurent pas me laisser imposer les mains aux malades. Je suis resté 3 soirées. Elles ne voulurent pas me laisser imposer les mains aux malades. Ainsi, vous voyez ce que Dieu peut faire. La foule était si grande qu'ils durent faire appel à la police montée qui, à cheval, fait évacuer les rues afin que je puisse arriver au lieu de réunion. Et je n'ai pas imposé les mains malades, mais cependant j'ai prié pour eux, et je leur ai fait imposer les mains les uns aux autres. Ainsi, donc demain matin, maintenant ce soir, allons-nous simplement répondre à ces questions, parce que quelques-unes sont vraiment très bonnes, et je ne sais pas combien de temps le Seigneur nous accordera pour y répondre. Puis demain matin, Billy Paul, Jean ou Léo sera ici pour distribuer les cartes de prière de 8h à 8h30. Maintenant, pour les personnes qui viennent de l'extérieur, je vais répéter, afin que vous ne l'oubliez pas, si vous désirez venir dans la ligne, nous préférerions avoir dans la ligne les gens de l'extérieur, si possible. Maintenant, quelquefois, ici dans cette assemblée, il arrive que lorsque nous faisons venir dans la ligne des gens de l'extérieur, quelqu'un dira, « Eh bien, je ne savais pas ce qui n'allait pas chez eux. Il se peut qu'ils aient dit quelque chose de faux. » Puis, quand ce sont des gens d'ici, on dit, « Oh, vous les connaissiez peut-être. » Ou bien on dit, « Eh bien, moi, je vous dis, ce sont les cartes de prière. » Alors, qu'en est-il de ceux qui n'en ont pas? Il y eut plusieurs jours de suite où, que dites-vous, que je m'éloigne du micro. Eh bien, savez-vous, j'ai toujours prêché au milieu de la route. Ainsi, peut-être vais-je le mettre comme ceci. Est-ce mieux? C'est mieux, c'est très bien. Je vais vous dire ce qu'il y a. Notre système de sonorisation est très mauvais ici, très mauvais. Et nous n'essayons pas de l'améliorer pour le moment, parce que nous allons construire le nouveau tabernacle très prochainement, et alors nous aurons beaucoup de place. Voyez-vous, si nous pouvons disposer d'un espace un peu plus grand, nous pourrons placer davantage de sièges, et nous serons alors prêts pour les réunions que nous en aurons ici. Et maintenant, souvenez-vous, demain matin, un de ces trois frères distribuera les cartes de 8h à 8h30. Cela permettra à tout le monde de s'installer. J'ai expliqué comment il distribue les cartes et pourquoi nous le faisons. C'est pour maintenir l'ordre. Vous voyez, que diriez-vous si j'arrivais ici comme maintenant et que je dise « Faites venir cette dame, et cet homme, et cette dame-ci. » Vous voyez, ce serait un peu difficile. Très souvent, j'ai fait ceci. Et s'il n'y a pas trop de monde, demain matin, je ferai peut-être la même chose. Je dirai, combien y a-t-il de personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont quelque chose qui ne va pas? Qu'elles se lèvent. Frère Mercier, vous allez venir à mon secours. Voulez-vous m'aider? Oh, vous venez pour... Il vient pour être lui-même secouru. J'ai parlé à votre ami aujourd'hui, alors vous feriez mieux d'être très gentil avec moi. Vous voyez, très bien. C'est bon. J'admire ce courage, frère Léo. Quand ce n'est pas juste, cherchons à l'obtenir de la meilleure façon possible. Bon, alors, je demande simplement aux personnes du dehors et qui ont quelque chose qui ne va pas, de lever la main. Puis, je me consacre à une personne jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à agir et saisisse tout l'auditoire. Combien ont-ils déjà vu cela s'accomplir ici? Bien sûr, vous voyez, ainsi la façon dont cela se fait n'a aucune importance. C'est simplement, j'aimerais que vous vous souveniez de ceci, et j'essaierai d'y revenir demain matin. L'évangile qui était donné aux gentils est un évangile de foi, et pas du tout un évangile de bonnes œuvres. Vous voyez, et comme je l'ai dit hier soir, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, quand ils allèrent vers les Juifs, Actes 19.5, ils durent leur imposer les mains pour qu'ils le reçoivent. Et quand ils allèrent vers les Samaritains, ils durent leur imposer les mains. Mais quand ils arrivèrent chez les gentils, dans la maison de Corneille, pendant que Pierre prononçait ces paroles, pas d'imposition des mains. Quand la petite fille mourut, la fille de Jaïrus, le prêtre, il dit « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle vive. » Mais le centenier romain, un gentil, dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis simplement une parole. » C'est cela, vous voyez? La femme syrophénicienne, en réalité, c'était une grecque. Quand Jésus lui dit « Il n'est pas convenable que je prenne le pain des enfants et que je le donne aux chiens », elle répondit « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Le Seigneur dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Alors dites de bonnes paroles, dites du bien de votre prochain, parlez de Jésus. Que vos paroles soient droites, qu'elles soient vraies. » C'est la façon de se débarrasser des démons. Il n'a jamais dit, il n'a jamais prié pour la fille, il n'a jamais dit un mot pour qu'elle soit guérie, il a simplement dit, « À cause de cette parole, à cause de cette parole. » Hattie Wright, l'autre jour, n'a rien demandé. Elle était simplement assise ici, mais elle dit la chose juste.
Et cela plut au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a répondu ceci, « Hattie, demande ce que tu veux, tout ce que tu veux. Regarde si c'est vrai ou pas. Demande n'importe quoi. Ce pouvait être la guérison de sa sœur infirme à Tisla. 10 000 $ pour ne plus avoir à aller bêcher dans ces collines là-bas. Que la jeunesse revienne dans son pauvre corps épuisé. Tout ce que tu veux demander, demande-le maintenant. Si le Saint-Esprit ne vient pas te le donner tout de suite, alors je suis un faux prophète. C'est quelque chose, n'est-ce pas ? Jésus dit, « Dites à cette montagne, et vous avez su ce qui est arrivé. C'est le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes tout en haut de la route maintenant. La venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous devons avoir la foi de l'enlèvement dans une église qui peut être changée en un instant, en un clin d'œil, pour partir ou nous partirons pas. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera là. Elle sera là. Et quand la puissance de cette église s'élèvera, elle amènera ses frères. La puissance de cette église-là amènera ses frères. La puissance de cette autre église amènera d'autres frères. Alors il y aura une résurrection générale. Nous l'attendons avec impatience. Maintenant, n'oubliez pas, les cartes de prière seront distribuées demain matin de 8h à 8h30. Puis je leur demanderai d'arrêter, quel que soit le nombre distribué, de retourner à leur place et de s'asseoir, vous comprenez, parce qu'il est fort probable qu'ils auront tout distribué d'ici là, ou en tout cas, autant que nous pourrons en appeler. Les frères viendront, mélangeront toutes les cartes devant vous, puis si vous en voulez une, vous une, et ainsi de suite. Alors quand j'arriverai, j'aurai juste à commencer depuis le numéro que le Seigneur m'indiquera. Mais s'il dit « n'appelle personne », je n'appellerai personne, voyez-vous, quoi que ce soit. De toute façon, ce ministère est à son déclin. Quelque chose de plus grand est en route. Souvenez-vous, chaque fois que cela a été dit sur ce podium ou à cette chaire, cela n'a encore jamais manqué d'arriver. Vous vous souvenez du ministère où je prenais la main, vous avez vu ce qui s'est passé, et quand vous pensez du cœur, avez-vous vu ce qui est arrivé? Maintenant, observez ceci, prononcez la parole et voyez ce qu'elle produit. Comprenez-vous, je vous ai dit ceci il y a des années, à l'église, je parle du tabernacle, il y a des années, il y a 3 ou 4 ans, que quelque chose allait se matérialiser, allait avoir lieu. Et voici que maintenant, cela commence à se manifester, à prendre forme. Nous en sommes très reconnaissants. Oh, combien nous en sommes reconnaissants, tellement heureux. Maintenant, nous avons ici quelques questions très ardues, et nous allons tout de suite nous en occuper. Quelqu'un a regardé tous les livres que j'avais. Je lui ai dit, un homme intelligent n'en a besoin qu'en un seul. Mais je ne suis pas un homme intelligent. Je dois consulter beaucoup de livres. Bon, celui-ci est le diaglotte, celui-ci une Bible, et celui-là une concordance. Nous allons simplement demander au Seigneur de nous aider et de nous diriger pour répondre à ces questions conformément à sa volonté divine et à sa parole. Ainsi maintenant, inclinons nos têtes quelques instants pour prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants du plus profond de notre cœur pour ce que tu as fait pour nous ces 3 derniers soirs. Oh, voir les prédicateurs se rencontrer dans la pièce derrière en se serrant la main et avec une foi renouvelée, faire un nouveau pas en avant, s'appelant au téléphone, et nos cœurs dans la joie des personnes recevant le Saint-Esprit, après avoir vu que ta parole indiquait exactement chaque pas conduisant au baptême du Saint-Esprit. Nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Tu rends les choses tellement simples pour nous, parce que nous sommes des gens simples, et nous te prions, ô Dieu, de toujours nous laisser être simples. Seul celui qui s'abaissera sera élevé. La sagesse du monde est folie pour Dieu, et il a plu à Dieu de sauver ceux qui étaient perdus par la folie de la prédication. Et maintenant, Père, j'ai ici devant moi plusieurs questions qui viennent de cœurs sincères qui sont concernés. Et une réponse fausse à l'une d'elles peut jeter la personne qui l'a posée sur la mauvaise voie. Elle projetait ainsi une fausse lumière sur la question qui la tracasse. Ainsi, Seigneur Dieu, je prie que ton Saint-Esprit vienne sur nous et révèle ces choses. Car il est écrit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur, nous frappons la porte de ta miséricorde. Nous tenons dans l'ombre de ta divine justice, nous invoquons le sang du Christ de Dieu et le Saint-Esprit. Et nous ne devenons pas ici ce soir simplement parce que ces trois soirées de prédication sur le Saint-Esprit sont terminées. Nous venons avec le plus profond respect et la plus grande sincérité. Nous venons comme si ce devait être nos dernières nuits sur la terre. Nous venons en croyant que tu exauceras nos prières. Et Seigneur, nous te demandons de nous accorder ta vie éternelle.
Amen.
Et en réponse à ta parole, puisse le Saint-Esprit, ô Dieu, comme nous avons vu que c'est toi-même qui es parmi nous, nous te demandons qu'il nous révèle ce soir les choses que nous désirons. Et nous désirons seulement que nos âmes soient en repos, et nos pensées en paix, ayant foi en Dieu pour aller de l'avant et réclamer les bénédictions qu'il a promises. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. J'ai maintenant ici toutes les questions qui m'ont été posées, sauf une. J'ai répondu au frère Martin, qui m'avait posé une question avant-hier soir, juste une. Il y en avait beaucoup ici hier soir, mais c'était des requêtes de prière. Frère Martin m'a posé une question sur Jean 3:3. Je crois. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Et il l'a comparé avec une bande que j'avais envoyée sur les Hébreux. Et je l'ai rencontré hier soir ici dans la pièce de derrière et je lui ai répondu sur ce sujet. Maintenant, y a-t-il ici des personnes qui n'étaient pas présentes hier soir? Levez la main. Ceux qui n'étaient pas ici hier soir, oh, nous aurions tellement voulu que vous soyez avec nous. Nous avons eu des moments si glorieux. Le Saint-Esprit, je voudrais juste une minute, cela ne ferait pas de mal, c'est enregistré, et s'il arrive qu'un pasteur ou quelqu'un d'autre ne soit pas d'accord sur ce que j'ai l'intention de dire maintenant, ou même sur les questions posées, je vous demande, frère, de ne pas trouver cela étrange. Mais souvenez-vous que cet enregistrement est fait ici dans notre tabernacle. Nous enseignons nos fidèles. Beaucoup de pasteurs de croyances différentes sont présents ici, et je voudrais revenir à ce sujet, car je vois ici ce soir quelques-uns de nos fidèles qui n'ont pas pu entrer hier soir. Et je voudrais revenir un moment, si vous le permettez, à ce que j'ai dit hier soir. Cela traitait de la Pentecôte et de la réception du Saint-Esprit. Maintenant, en lisant la traduction du texte grec de l'Emphatic Diglot, que j'ai lu hier soir et qui est ouverte devant moi maintenant, c'est la traduction anglaise originale du texte grec. Cela n'a pas passé par d'autres traducteurs, ni d'autres versions, c'est traduit directement du grec en anglais. Maintenant, les mots anglais ont très souvent des significations qui leur sont particulières, comme si en français je faisais entendre le son « saut ». Il peut s'agir d'un « saut » S-A-U, ou d'un « saut » S-A-U-T, ou d'un « saut » S-C-E-A-U, ou encore d'un « saut » S-O-T. Il faut connaître la phrase dans lequel ce son se trouve, pour comprendre sa signification. Prenons le mot « mer », M-E-R, vaste étendue d'eau. Mais si vous le voyez écrit Mère, M-E-R-E. Vous savez que c'est une femme qui a eu un ou plusieurs enfants. Mais revenons à cette traduction du mot employé ici dans le chapitre 2 des Actes dont j'ai parlé hier soir. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, j'aimerais que pendant quelques instants seulement, nous revenions en arrière. Seriez-vous d'accord? Afin de faire une sorte de révision avant d'aller plus loin. Maintenant, prenez la traduction du roi Jacques ou la traduction que vous avez l'habitude de lire. Et je vais le lire. Écoutez donc très attentivement. Ne vous méprenez pas. Beaucoup aujourd'hui, même ma sœur, beaucoup m'ont interpellé disant, Madame Morgan et beaucoup de ceux qui étaient là hier soir. Madame Morgan est une de nos sœurs qui était considérée comme perdue. Elle était sur la liste des condamnées à mort par le cancer à Louisville, il y a 16 ou 17 ans. Je pense qu'elle est de nouveau ici ce soir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'entendre parce que je parlais directement dans le microphone. Ainsi, pour eux, je veux revenir sur ce sujet un moment. Maintenant, je lis le chapitre 2 des Actes. Le jour de la Pentecôte étant pleinement arrivé, ils étaient tous d'une même pensée. Maintenant, je préfère cela à un commun accord. Parce que vous pouvez être d'accord sur presque n'importe quel sujet, mais ici leurs pensées étaient les mêmes, d'une même pensée et dans le même lieu. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force. Elle remplit toute la maison où ils étaient assis, pas à genoux, ni en prière, mais assis. Des langues divisées, L-A-N-G-U-S, langues. Divisés, cela veut dire séparés, leur apparurent semblables à du feu, et l'une d'elles, l'une singulière, se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, et, conjonction, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux de toute nation, dont ceux qui sont sous le ciel. Le bruit de ceci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Maintenant, remarquez, quand le feu vint, c'était des langues. Quand ils parlèrent, ce fut un langage. Or, il y a une grande différence entre langue et langage. Pour nous, c'est la même chose. Mais en grec, langue signifie ceci, oreille ceci. Vous voyez, cela ne signifie pas un langage, cela signifie une partie de votre corps qui est une langue. Si vous remarquez, c'est traduit par langue de feu, ce qui signifie comme des langues. Juste comme une léchée de feu, une flamme de feu. Or, remarquez l'accentuation et ces différents endroits. Ne l'oubliez pas. Maintenant, nous allons vous présenter un petit drame ce soir. Et je vous laisserai en penser ce que vous voudrez. Or, souvenez-vous, si quelque chose est contraire à ce que vous pensiez, faites-en ce que vous voulez. Mais la seule façon pour quiconque de recevoir quoi que ce soit de Dieu est de le recevoir par la foi. Et avant que vous ne puissiez, je dois savoir ce que je fais avant que je puisse avoir foi dans cela. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous aviez foi en elle. Vous l'aviez mise à l'épreuve. Vous l'aviez observée. Vous saviez d'où elle venait, qui elle était. C'est ainsi avec l'Écriture et Dieu. Ces visions, cette colonne de feu, toutes ces choses se produisent parce que Dieu l'a promis. Dieu l'a dit. Je l'ai éprouvé par sa parole, et je sais quelle est la vérité. Et vous suivez sa parole. Alors, s'il y a de la confusion quelque part, c'est qu'il y a donc quelque chose de faux quelque part. Parce que Dieu, écoutez, Dieu n'a jamais fait, ni ne fera jamais quelque chose en dehors, ou quelque chose qui soit contraire à ses propres lois. L'hiver ne viendra pas en été, et l'été ne viendra pas en hiver. Les feuilles ne tomberont pas au printemps, et ne repousseront pas en automne. Cela ne se peut pas. Comme je l'ai dit hier soir, en parlant du puits artésien arrosant vos récoltes, ou alors si vous êtes debout au milieu d'un champ par une nuit noire et que vous disiez, « Oh, toi, grande électricité, je sais que tu existes dans ce champ. Je suis perdu maintenant, je ne sais pas où je vais, donne de la lumière afin que je puisse voir où je marche. Il y a assez d'électricité pour éclairer tout le champ. » C'est vrai, oui monsieur, il y a assez d'électricité dans cette pièce pour l'éclairer même sans ses lumières. Mais vous devez la maîtriser. Vous pourriez hurler jusqu'à épuisement sans que jamais elle n'éclaire. Mais si vous agissez selon les lois de l'électricité, alors vous aurez de la lumière. Eh bien avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est le grand créateur des cieux et de la terre, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours Dieu, mais il agira que si vous obéissez à ses lois et suivez ses instructions. Mes amis, je peux dire ceci, je ne l'ai jamais vu faire défaut et cela n'arrivera pas. Maintenant remarquez, dans Luc 24, 49, Jésus commissionna les apôtres après qu'ils eurent été sauvés et sanctifiés selon la parole. Justifié pour avoir cru au Seigneur Jésus, sanctifié dans Jean 17:17 quand Jésus dit « Sanctifie-les, Père, par la vérité, ta parole est la vérité. » Et il était la parole. Ainsi, il leur donna le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, et ils revinrent tout joyeux. Leur nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous vous souvenez que lorsque nous avons étudié cela, mais ils n'étaient pas encore convertis. La nuit de sa crucifixion, Jésus dit à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Le Saint-Esprit est, « Vous croyez à la vie éternelle, mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui est la vie éternelle. Vous croyez à, vous êtes engendré de l'Esprit à la sanctification, mais vous n'êtes pas né de l'Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. » C'est exact. Un bébé vivant dans le sein de sa mère, ses petits muscles s'agitent, c'est une vie, mais cela devient une vie différente quand il aspire le souffle de vie par ses narines. C'est quelque chose de différent. Voilà ce que c'est, mes chers frères méthodistes, pèlerins de la sainteté et nazaréens, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification est la purification qui prépare la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. La préparation purifie le vase, le Saint-Esprit le remplit. Sanctifier signifie purifier et mis à part pour le service. Le Saint-Esprit le met en service. Vous êtes le vase que Dieu a purifié. Nous découvrons que le Saint-Esprit est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu du temps de Moïse. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit, non pas trois dieux, mais un seul Dieu agissant trois fonctions. Dieu condescendant, s'abaissant jusqu'à l'homme. Ce dernier ne pouvait pas entrer en contact avec lui parce qu'il avait péché dans le jardin d'Éden et s'était séparé de sa communion. Alors qu'est-il arrivé? Dieu devait être au-dessus de l'homme. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas permettre à Dieu de retrouver la communion avec l'homme. Mais les lois et les préceptes prescrivant l'offrande des bœufs, de moutons et autres préfiguraient les temps à venir. Puis quand Dieu descendit et demeura dans un corps sanctifié, né d'une vierge que Dieu lui-même. Savez-vous ce que Dieu a fait? Il n'a fait que, il a planté sa tente parmi les nôtres. Dieu a demeuré dans une tente appelée Jésus-Christ. Il a tout simplement dressé sa tente parmi nous. Il est devenu « Je vais prêcher là-dessus demain matin, c'est pourquoi je ferais mieux de rester là. » C'est la manière dont Dieu demeura avec nous. Et maintenant, Dieu est en nous. Dans le chapitre 14 de Jean, Jésus a dit en ce jour-là, « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, le Père en moi, moi en vous et vous en moi. » Dieu en nous. Dans quel but? Pour accomplir son plan. Dieu avait un plan, il voulait travailler parmi les hommes. Et il se manifesta dans la colonne de feu, qui était le feu mystique, se tenant au-dessus des enfants d'Israël. Puis ce même feu se manifesta dans le corps de Jésus, et dit qu'il était ce feu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il était ce feu. Il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Paul, alors qu'il s'appelait encore Saul, le rencontra sur le chemin de Damas, alors qu'il était retourné à cette colonne de feu. Ce fut une lumière qui l'aveugla, c'est vrai. Et le voici aujourd'hui, cette même colonne de feu, ce même Dieu accomplissant les mêmes signes et les mêmes œuvres. Qu'en est-il? Il œuvre parmi son peuple. Il est en nous, il est avec vous en ce moment. Mais dit-il, je serai en vous, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'il serait avec nous. Maintenant remarquez, Jésus leur avait commandé de monter à Jérusalem et d'y demeurer dans la tente. Le mot « tarry » signifie « demeurer dans la tente ». Il ne signifie pas « prier », il signifie « attendre ». Il n'était pas encore qualifié pour prêcher parce qu'il ne connaissait sa résurrection que par sa personne, parce qu'il avait vu d'une manière extérieure. Il leur commanda de cesser de prêcher, de ne rien faire, jusqu'à ce qu'ils aient été premièrement revêtus de la puissance d'en haut. Je ne crois pas qu'un prédicateur soit envoyé de Dieu ou puisse être correctement ordonné parce que Dieu est infini. Et ce que Dieu fait une fois, il le fait toujours. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant la Pentecôte, où ils devaient vivre cette expérience de la Pentecôte, aucun homme, à moins qu'il en ait le profond désir par lui-même, ou qu'une organisation quelconque le lui ait ordonné, n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est parfaitement vrai. Car il les conduira par une conception intellectuelle d'une certaine organisation jusqu'au jour où il sera rempli du Saint-Esprit. C'est alors qu'il pourra leur donner la nourriture de la colombe, l'agneau et la colombe, comme nous en avons parlé hier soir. Maintenant remarquez, il leur dit, montez à Jérusalem et demeurez-y, attendez simplement jusqu'à ce que j'envoie la promesse du Père. Et alors, qu'ont-ils fait? Ils étaient 120. Hommes et femmes, ils sont allés dans une chambre haute au temple. Le jour de la fête de Pentecôte était donc proche. À partir de la purification du sanctuaire, la mise à mort de l'agneau pascal, jusqu'à la venue de Pentecôte, qui était la fête des prémices de la moisson, le jubilé de Pentecôte, et sur les bâtiments. Or, j'ai visité ces pays. Les pays orientaux ont rarement un escalier extérieur, ont rarement un escalier intérieur. L'escalier est à l'extérieur du temple, nous dit-on, il y avait un escalier qui conduisait à une petite pièce là-haut. Vous deviez monter, monter, monter encore jusqu'à ce que vous arriviez à une petite chambre semblable à une resserre, tout en haut, au sommet du temple, une sorte de petite chambre, une chambre haute. Et la Bible dit qu'ils étaient là, toutes portes fermées, par crainte des Juifs, car ces derniers les mettraient en pièces pour avoir adoré le Seigneur Jésus après que Caïphe, le souverain sacrificateur, Ponce Pilate et les autres l'eussent mis à mort. Ainsi, ils voulaient se débarrasser de ces soi-disant chrétiens. Cependant, eux, ils attendaient portes fermées. Or, dans les pièces de ce genre, il n'y avait pas de fenêtres. Les fenêtres étaient fermées par des sortes de grillages que l'on tirait pour ouvrir, comme des portes. Dans ces pièces pendaient de petites lampes à huile allumées. Si vous allez en Californie à la cafétéria Clifton, descendez au sous-sol et vous trouverez une lampe exactement pareille à celle qui était dans la chambre haute. Êtes-vous déjà allé là-bas? Combien d'entre vous y sont-ils allés? Je vois des gens faire un signe de tête affirmatif. Bon, vous savez de quoi je parle. Très bien. Descendez. Et vous verrez le jardin de Gethsemane. Auparavant, vous entrerez dans une sorte de ces pièces orientales. C'est parfaitement vrai. Vous y trouverez une petite lampe pleine d'huile d'olive dans laquelle trempe une petite mèche qui brûle. Bon, disons simplement qu'ils étaient là-haut. Ayant grimpé l'escalier tournant extérieur, ils s'étaient cachés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus ne leur avait pas dit d'aller dans la chambre haute. Il leur avait seulement dit « Attendez à Jérusalem ». S'ils étaient allés dans une maison, il est difficile de savoir ce qui serait arrivé. On serait entré et on les aurait pris. Aussi allèrent-ils dans une vieille petite chambre, tout en haut de l'escalier. Et là, dans la mansarde, ils se barricardèrent pour que les Juifs ne puissent pas y entrer et se saisir d'eux. Ils attendirent là pendant 10 jours. Nous en sommes au chapitre 1er des Actes. Maintenant, écoutez attentivement. Vous voyez la scène? À l'extérieur de l'édifice, le petit escalier qui montait, elles allèrent dans cette petite chambre. En bas, dans le temple, ils célébraient la fête de Pentecôte. Or, c'était une grande cérémonie. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée, croyant que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Que chaque personne présente ce soir soit dans le même état d'esprit, et vous verrez ce qui va arriver. Cela doit se répéter. C'est exactement la même promesse que la leur. Vous voyez? Qu'était-il en train de faire? Il suivait les instructions et se conformait aux lois de Dieu. Attendez jusqu'à ce que... Ils avaient donc peur des Juifs. Souvenez-vous de cela, ils avaient peur des Juifs. Alors, tout à coup, il y eut un bruit semblable à un vent impétueux. Ce n'était pas un vent impétueux. C'était semblable à un vent impétueux. Dans quelques minutes, je lirai les commentaires du traducteur. C'était semblable à un vent impétueux. En d'autres termes, c'était un vent surnaturel. Oh! Quelque chose qu'ils pouvaient sentir. Le vent était en eux. Alors, il y eut un vent impétueux, semblable à un vent impétueux. Ce vent ne soufflait pas impétueusement, mais il faisait simplement le même bruit qu'un vent impétueux, quelque chose comme cela. L'avez-vous jamais senti? Oh, comme un vent impétueux! Maintenant, observez, elle remplit, or ici on dit, toute la maison, mais dans le texte grec, on trouve le terme totalité, théotéalité, la totalité de la maison, partout dans les moindres recoins. Toutes les fissures, tous les coins, toutes les crevasses paraissaient en être remplies. Il ne disait pas, dites-moi mes frères, sentez-vous ce que je ressens? Non, il soufflait partout, comme un vent impétueux. Maintenant, faites attention. Alors, il y eut un bruit semblable à un vent violent et impétueux. Et, conjonction. À présent, faites attention à ces et. Si vous n'y prenez garde, vous lui feriez dire quelque chose qu'il ne dit pas. Vous voyez, et. Comme... C'est ce qui est arrivé en premier, un bruit. Quelque chose comme un vent impétueux vint sur eux. Eh, vous vous souvenez, hier soir, je suis allé à l'épicerie pour acheter un pain et de la viande. C'est quelque chose qui allait avec le pain. Le pain est une chose, la viande en est une autre. Et le bruit, c'est une chose qui les a frappés. Et il leur apparut devant eux des langues. Des langues divisées. Quelqu'un ici a-t-il vu les 10 commandements de Cécile de Mille? Avez-vous remarqué le moment où les commandements ont été écrits? Comment fut faite la prise de vue? Je n'en sais rien. Mais il y a 2 ou 3 choses que j'ai vues là-dedans que j'ai vraiment aimées. La première est cette lumière couleur émeraude. C'est exactement à quoi cela ressemble. Vous voyez, une autre chose, quand les commandements furent écrits et quand ce fut fini, avez-vous remarqué les petites langues de feu qui s'éloignait de cette grande colonne de feu? Avez-vous remarqué cela? Maintenant, je pense que c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Il leur apparut, ainsi ils pouvaient les voir. Il n'est pas dit, il tomba en eux. Mais il leur apparut des flamèches, comme on pourrait les appeler, semblables à des langues. Comme cette langue-ci, en forme de langue, de flamèches de feu. Maintenant, l'oreille, comme je le disais, l'oreille, c'est l'oreille. Le doigt, c'est le doigt. Doigt ne signifie pas que vous le sentiez, cela signifie qu'il ressemble à un doigt. Et si c'était une oreille, cela ne voulait pas dire qu'ils entendaient, mais que cela ressemblait à une oreille. Alors ceci, c'était du feu qui ressemblait à une langue. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait, c'était un feu qui ressemblait à une langue. Maintenant, écoutez, observez comment le grec le mentionne ici. Et soudain, il y eut un bruit semblable à un vent violent et impétueux. Le 3e verset. Et des langues divisées leur apparurent. Non pas que des langues divisées eussent été en eux, ou qu'ils eussent parlé en langue divisée, c'était des langues divisées qui leur apparurent. Maintenant attention, elles ne sont pas encore sur eux, elles sont dans la chambre, comme tourbillonnant dans ce vent. semblables à des langues de feu divisées, leur apparurent, c'est-à-dire devant eux, comme du feu, des langues semblables à du feu, et l'une, au singulier, d'elles reposa sur chacun d'eux, non pas entra en eux, mais reposa sur eux. Maintenant, voyez comment la version du roi Jacques rend mal cela. Et des langues séparées vinrent sur eux ou reposèrent. Comment donc ce passage est-il écrit dans la version du roi Jacques? Se posèrent sur eux, vous voyez. Or, elles ne pouvaient monter et se poser, nous savons cela. Mais le texte original dit, elles reposèrent sur eux. Je crois, n'est-ce pas? Laissez-moi répéter cela exactement. Oui, c'est cela. Reposèrent sur chacun d'eux. Une langue de feu reposa sur chacun d'eux. Vous voyez où cela se trouve? Y êtes-vous? C'est ce qui arriva en second lieu. D'abord, il y eut un vent, puis des langues de feu sont apparues. Cela s'est passé dans cette petite chambre éclairée par des lampes à huile. Imaginez-les assis dans cette chambre, et l'un d'eux dit, « Oh, il promenait ses regards, et cela remplissait le bâtiment. » Puis il dit, « Regardez !» Des langues de feu commençaient à tournoyer tout autour du bâtiment. « Madame, attention !»« Hé !» Alors apparurent ces langues de feu. Maintenant, prenez bien garde à ce qui suit. Et, une autre conjonction, quelque chose d'autre arriva. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose qui arrive. Maintenant, vous voyez, on veut changer cela et dire, ils avaient reçu des langues de feu et se mirent à bredouiller entre eux, puis ils sortirent et commencèrent à parler dans une langue inconnue. Il n'est rien dit de semblable dans les Écritures, mes amis. Quiconque parle dans une langue inconnue lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit est en désaccord avec la Bible. Je vais vous le prouver dans quelques minutes et vous prouver que je crois qu'on peut parler des langues inconnues, mais pas lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est un esprit. Maintenant, observez. Ces langues qui étaient dans la chambre étaient semblables à du feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors ils furent remplis du Saint-Esprit, deuxième chose, et alors, après qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils parlèrent en langue, non pas en langue, mais en langage. Aviez-vous remarqué cela? Ils commencèrent à parler en d'autres langages, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce bruit se répandit. Maintenant, regardez. Représentons-nous de nouveau la scène pour que vous ne l'oubliez pas. Selon l'Écriture, ils attendaient dans la chambre haute. Soudain, un bruit semblable à un vent impétueux arriva sur eux. C'était le Saint-Esprit. Combien croient que c'était l'apparition du Saint-Esprit? Semblable à un vent surnaturel. Puis ils remarquèrent que dans la pièce, il y avait de petites langues de feu. Il y en avait 120. Elles commencèrent à descendre et à se poser sur chacun d'eux. Qu'était-ce donc? La colonne de feu, qui était Dieu lui-même se partageant parmi son peuple et entrant en eux. Jésus avait la plénitude, il avait l'Esprit sans mesure. Nous l'avons avec mesure, c'est-à-dire d'une façon limitée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes des enfants adoptés. Sa vie éternelle venait alors en eux. Puis qu'était-il arrivé? Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. À quel moment le bruit commença-t-il à se répandre, s'ils durent sortir de cette chambre haute pour descendre les escaliers et aller dans le parvis du palais, ou plutôt dans le parvis du temple, où tout le monde était assemblé, ce qui était probablement à une certaine distance de l'endroit où ils se trouvaient, ainsi ils sortirent de l'endroit où ils se trouvaient comme s'ils étaient ivres de l'esprit. Car les gens dirent, ces hommes sont pleins de vin doux, ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Et chacun d'eux essayait de leur dire, le Saint-Esprit est venu, j'ai reçu la promesse de Dieu, j'étais rempli de l'esprit. Et celui qui parlait était un Galiléen. Mais celui à qui il parlait, quoique arabe ou perse, l'entendait dans sa propre langue. Comment entendons-nous? Ce n'était pas dans une langue inconnue. Comment entendons-nous chaque homme dans notre langue maternelle? Tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et peut-être parlaient-ils le galiléen. Mais quand les autres les entendaient, c'était pour eux leur langue maternelle. S'il n'en était pas ainsi, j'aimerais vous demander de me répondre à cette question. Comment se fait-il que Pierre se présenta là et parla galiléen et qu'ils comprirent tous ce qu'il disait? 3000 âmes vinrent à Christ à cet endroit et Pierre ne parlait que dans une seule langue. Certainement. C'était Dieu qui accomplissait un miracle. Pierre était devant ce même auditoire, composé d'habitants de Mésopotamie, d'étrangers, de prosélytes, et de tous ces gens venus du monde entier. Il prêcha dans une seule langue, et tout le monde l'entendit. Car 3000 se repentirent et furent immédiatement baptisés au nom de Jésus-Christ. Qu'en dites-vous? Vous voyez, mes amis, je ne m'attends pas à ce que mes frères dénominationnels pentecôtistes acceptent cela d'emblée. Mais suivez cela à travers la Bible. Et alors montrez-moi une seule fois où ils aient reçu le Saint-Esprit et parlé dans une langue sans qu'ils aient su dans quelle langue ils parlaient. Si c'est la manière qu'ils l'ont reçu, le Dieu souverain, cela doit arriver chaque fois de la même manière. Maintenant, nous nous souvenons que hier soir, quand nous avons examiné ce qui s'est passé à Samarie, nous avons découvert qu'ils n'avaient lancé nulle part qu'ils entendirent parler en d'autres langues. Mais quand ils sont allés à la maison de Corneille, où il y avait des gens de 3 nationalités différentes, ils parlèrent en langue. Et quand ils le firent, ils reçurent le Saint-Esprit, dit Pierre, comme eux au commencement. Elles surent que les gens qui avaient reçu la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit de la même manière qu'ils l'avaient reçu au commencement. J'ai une question ici, traitant de cela, dont je parlerai tout à l'heure. Je veux d'abord poser les fondations pour que vous voyez ce que c'est. Maintenant, je ne peux pas m'attendre à ce que les personnes aient reçu un enseignement différent. Et maintenant, écoutez-moi, mes chers et précieux frères pentecôtistes. Je ne voudrais pas enseigner cela à l'extérieur. Je ne voudrais rien faire qui puisse provoquer une controverse. Mais si nous n'obtenons pas la vérité, quand allons-nous commencer? Il faut que quelque chose ici se produise pour nous redresser. Pour être enlevés, nous devons recevoir une grâce particulière, ici, maintenant. La vérité doit apparaître. Que ferait un homme s'il était sourd et muet et dans l'impossibilité de parler? Pourrait-il recevoir le Saint-Esprit? Et tout d'abord, qu'en serait-il si ce pauvre homme n'avait pas de langue et qu'il désirait être sauvé? Vous voyez? Si le Saint-Esprit est un baptême, ainsi tous ces dons, tels que parler en langue, interprétation des langues, ne sont manifestés qu'après que vous soyez entrés dans le corps par le baptême du Saint-Esprit, car ces dons sont dans le corps de Christ. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, maintenant regardez, pouvez-vous attendre que l'Église, attendre de l'Église catholique, qui fut la première Église organisée dans le monde après les apôtres? L'Église catholique fut organisée, oh, plusieurs centaines d'années après la mort du dernier apôtre, quelques 600 ans après les apôtres, immédiatement après le Concile de Nicée, quand les pères de Nicée se réunirent et l'organisèrent. Alors, ils établirent l'Église universelle, qui était l'Église catholique. Ils établirent ainsi une Église mondiale. Le mot catholique signifie universel, c'est-à-dire qui est partout. La Rome païenne devint la Rome papale. Ils établirent un pape à sa tête, lequel devait prendre la place de Pierre, parce qu'il pensait, disait que c'était à lui que Jésus avait remis les clés du royaume. Et ce pape était infaillible, et l'est encore aujourd'hui pour l'Église catholique. Sa parole a force de loi. Il est le pape infaillible. Cela s'est passé ainsi, et alors ceux qui ne voulaient pas admettre la doctrine catholique étaient condamnés à mort, brûlés sur le bûcher et tout le reste. Nous connaissons tout cela d'après les écrits sacrés de Joseph et le livre des martyrs de Fox et beaucoup d'autres, les deux Babylones de Hyssop et d'autres grands historiens. Puis, pendant une période de 1500 ans, que nous connaissons sous le nom d'âge des ténèbres, la Bible fut enlevée aux gens. et pour autant que nous le sachions, elle fut cachée par un petit moine, etc. Puis après cela, vint la première réformation, celle de Martin Luther. Il a apparu et dit que l'hostie que les catholiques appelaient le corps littéral de Christ, représentait seulement le corps de Christ. Elle rejeta l'hostie sur la barre de l'autel, ou plutôt sur les marches de l'autel, et refusa de l'appeler le corps littéral de Christ. Elle prêcha « Le juste vivra par la foi ». Maintenant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'Église catholique soit d'accord avec lui. Certainement pas. Quand leur chef infaillible le leur interdit. Puis, après Martin Luther prêchant la justification, vint John Wesley prêchant la sanctification. Il prêcha qu'un homme, après avoir été justifié, ce qui est très bien, devait être sanctifié, purifié, que la racine du mal devait être extirpée de lui par le sang de Jésus. Maintenant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les luthériens prêchent la sanctification, parce qu'ils ne le feront pas. Après que Wesley eut prêché la sanctification, beaucoup de petites branches en sont sorties, telles que les méthodistes wesleyens, les nazaréens, et ainsi de suite, qui entretinrent la flamme à travers leur âge. Alors vinrent les pentecôtistes qui dirent, « Eh bien, le Saint-Esprit, c'est le baptême, et nous parlons en langue quand nous le recevons. » Oui, bien sûr. Quand cela arriva, vous ne pouviez pas vous attendre à ce que les nazaréens, les méthodistes wesleyens, les autres croient cela. Ils ne le voulaient pas. Ils dirent que cela, c'était du diable. Très bien, qu'arriva-t-il? Ils commencèrent à descendre, la Pentecôte commença à monter. Maintenant, c'en est arrivé au point où la Pentecôte reçut sa secouée. Elle s'est organisée, s'est détournée, n'acceptant rien d'autre. Elle a ses propres règles et ordonnances, un point c'est tout. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient et révèle la vérité sur quelque chose et la prouve par sa présence et par sa parole, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les Pentecôtistes disent « Je suis d'accord avec cela ». Alors, vous devez prendre position seul, comme l'ont fait Luther, Wesley et tous les autres. Vous devez prendre position là-dessus, parce que l'heure est arrivée. C'est ce qui fait de moi un vilain petit canard. C'est cela qui me rend différent. Et je ne peux pas aller de l'avant comme mes chers frères Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy X et d'autres encore, parce que les églises ne veulent pas être d'accord avec moi. Ils disent de moi, ils croient à la sécurité éternelle. C'est un baptiste. Ils ne croient pas que le parler en langue soit le signe initial du Saint-Esprit. Éloignez-vous de ce type-là, vous voyez? Mais affrontez cela, considérez-le. Ils peuvent affronter les luthériens, les méthodistes peuvent. Les pentecôtistes peuvent tenir tête aux méthodistes. Je peux affronter les pentecôtistes avec ce que j'ai. Exactement, c'est la vérité. Pourquoi cela? Nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Vous voyez? Nous remontons la voie royale et plus nous avançons, plus de grâce nous est donnée, plus de puissance nous est donnée, plus de surnaturel nous est donné. Elle nous dit, voilà, voici l'heure où le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une lumière, comme il était au commencement, une colonne de feu, et il s'est manifesté lui-même, faisant exactement les mêmes choses qu'il fit quand il était sur la terre. Et Jésus dit, comment savez-vous s'ils sont dans le juste ou non? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, mes frères pentecôtistes, je suis avec vous, je suis l'un de vous. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, mais je ne l'ai pas fait en recevant le Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé, j'ai eu le don de la connaissance, de la sagesse, de l'interprétation, j'ai vu toutes ces choses arriver. Je suis sujet à chacune de ces choses, parce que maintenant je suis un enfant de Dieu, la puissance. Le feu de Dieu est dans mon âme. Cette langue de feu qui est descendue a pénétré en moi et a consumé tout ce qui était contraire à Dieu. Et maintenant, son esprit me conduit. Il pourrait dire, va ici, et j'irai, va là, et j'irai, parle ici, tu parlerais, fais ceci et encore cela, vous y êtes. C'est semblable à, vous êtes conduit par l'esprit. C'est Dieu en vous, accomplissant sa volonté. Peu importe ce que c'est, il accomplit sa volonté. Maintenant, écoutez, laissez-moi lire ici dans ce lexique avant que je ne commence avec les questions. Tiré de la traduction du Vatican, volume 7, page 1205. Il est difficile de déterminer si c'était la voix de ces gens parlant dans une langue étrangère, ou bien la nouvelle ou la rumeur de l'opération surnaturelle de ce vent impétueux
qui mit en émoi la foule. Ils ne purent le comprendre. Maintenant, remarquez que les gens aient... Je vais vous donner une image. Voici un groupe de pauvres Galiléens frustres. Et les voici qui sortent dans la rue. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Ils descendirent dans cette chambre haute, les mains en l'air et remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient encore rien dit. Vous voyez, ils arrivent là, et maintenant, disons simplement qu'ils étaient ici titubants. Et les gens dirent, un grec s'approche de moi en courant et me dit, tandis que je parle galiléen, « Qu'avez-vous ? » J'ai été rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est descendue là dans cette chambre. Quelque chose m'est arrivé. Oh, gloire à Dieu ! Et un autre là-bas parlait en arabe, et lui, un galiléen, parlait l'arabe, la langue arabe. Maintenant, il ne peut pas dire si c'était le vent impétueux qui avait réuni toute cette foule de gens, ou si c'était parce qu'ils s'exprimaient en des langues étrangères. Or, la Bible ne dit pas exactement, il y a deux choses que vous pouvez observer. Les gens de l'extérieur disaient, « Comment se fait-il que nous entendions chacun parler la langue même du pays où nous sommes nés ?» Elle ne dit pas qu'ils parlaient leur langue, mais qu'ils l'entendaient parler. Puis le même groupe, les mêmes gens, par un exemple, expliquèrent ceci. Pierre monta sur quelque chose et dit, « Vous, hommes de Galilée, et vous qui habitez à Jérusalem, sachez bien ceci, les gens dirent qu'il n'y avait pas de langue galiléenne. Sachez bien ceci, et écoutez mes paroles. Quelle langue leur parlait-il donc à eux tous ? Voyons, ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il continua à leur parler ainsi et dit, « Vous, de vos mains iniques, vous avez crucifié l'innocent Fils de Dieu. » David avait parlé de lui lorsqu'il dit qu'il n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts et qu'il ne permettrait pas que son sein voie la corruption. Pierre ajouta, « Qu'il soit connu parmi vous que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et quand ils entendirent cela, « Amen !» Qui donc chaque homme sous les cieux. Que se passait-il? Il ne disait pas, maintenant je vais parler en galiléen, puis je vais parler dans cette langue, et ensuite dans cette autre langue. Après que Pierre eut prononcé ces paroles, il dit, homme, frère, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre leur donna la formule. C'est toujours de cette manière que cela se passe. Vous voyez? Cela continue à monter, à pénétrer en Dieu. Dans une marche étroite avec lui. Comment savez-vous? Bon, quand Luther a reçu la justification, la place de le Saint-Esprit, c'était bien cela. Dieu en mit un peu là-dedans. Puis qu'a-t-il dit? Wesley reçut la sanctification et dit, « Frère, que vous poussez les cris, sachez que vous l'avez reçu. » Mais beaucoup d'entre eux crièrent sans l'avoir. Quand les pentecôtistes parlèrent en langue, des langues inconnues dirent, « Frère, vous l'avez reçu. » Mais beaucoup ne l'avaient pas. On ne peut pas reconnaître de telles choses simplement au moyen de ces signes. La seule manière par laquelle vous reconnaîtrez un arbre, a dit Jésus, c'est au fruit qu'il porte. Les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Ainsi, quand vous voyez quelqu'un rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit, alors vous voyez que sa vie a été transformée. Vous voyez les signes qui accompagnent ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Si un serpent venait à les mordre, cela ne ferait pas de mal. S'ils avaient bu quelques breuvages mortels, cela ne les ferait pas mourir. Ils imposeront les mains malades, et ceux-ci guériront. Oh, ces sortes de signes accompagneront ceux qui croient. Comment pouvez-vous en bénéficier? Ces dons sont dans le corps. Comment pénétrez-vous dans le corps? Non par des paroles, mais par le baptême dans un seul corps. 1 Corinthiens 12:13. Nous sommes tous baptisés par un seul esprit dans ce corps. Et nous sommes sujets à recevoir tous les dons. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, si quelqu'un, en entendant cet enregistrement, ou bien quelqu'un ici présent, est en désaccord, manifestez-le, frère. Mais souvenez-vous que vous avez à le faire gentiment, car je vous aime. La première question ce soir est celle-ci. Frère Branham, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Eh bien, qui que ce soit qui a écrit cela, je suis d'accord avec lui. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Cela aurait pu être une bénédiction, mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, c'est la façon dont vous-même les considérez qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. La radio est une malédiction. Et très souvent, le téléphone en est une. Vous voyez? Vous voyez? Tout dépend du cas que vous en faites. Mais comme l'a dit un frère l'autre soir, il n'y a presque plus de programme à la télévision. Cela coûte trop cher. Un pauvre prédicateur qui prêche le plein évangile ne peut s'offrir un programme à la télévision. C'est pourquoi un frère disait ici l'autre soir, je crois, ou quelque part, dépoussiérez votre radio, ou sortez-la de son coin et écoutez ses programmes. C'est vrai, mes chères personnes, qui que vous soyez, je suis certainement d'accord avec vous. C'est devenu une des choses les plus odieuses pour l'espèce humaine. Ils prennent tout l'argent qui devrait aller au gouvernement pour les impôts et l'utilisent pour la publicité des cigarettes et du whisky et autres choses semblables. Et ils la détruisent des impôts. Et alors, ils traînent des prédicateurs devant les tribunaux pour en tirer de l'argent. Je suis d'accord avec vous, c'est une chose épouvantable. Maintenant, ce n'est pas... Vous voyez, c'est simplement quelque chose que vous ressentez. Merci, frère ou sœur, qui que vous soyez, d'avoir posé cette question. Maintenant, voici une bonne question. Il y a des endroits dans la Bible, tels que 1 Samuel 18:10, où il est dit qu'un mauvais esprit de Dieu fit certaines choses. Je ne comprends pas un mauvais esprit de Dieu. Veuillez, s'il vous plaît, l'expliquer. Eh bien, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir le faire. Cela ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit, mais tout esprit est soumis à Dieu. Il fait tout marcher selon sa volonté, voyez-vous? Maintenant, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui est venu de Dieu pour tourmenter Saül. Il était maussade et brisé. Premièrement, parce qu'il avait rétrogradé. Et quand vous rétrogradez, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. Je voudrais vous lire quelque chose dans un moment. J'ai une autre pensée là-dessus, voyez-vous. Chaque esprit doit être soumis à Dieu. Vous souvenez-vous du moment où Josaphat et Akab partaient pour la guerre? Premièrement, vous les trouvez assis aux portes de la ville. Et Josaphat, qui était un homme droit, dit, « Les deux rois étaient là, elles avaient réuni leurs forces armées. » Et alors il dit, « Consultons l'Éternel pour savoir si nous devons sortir ou non. » Et Akab s'en alla guérir les 400 prophètes qu'il avait, qu'il nourrissait, engraissait et tout. Ils étaient en bonne forme. Ainsi, ils vinrent à cet endroit, ils prophétisèrent d'un commun accord, disant, « Montez !» Et Dieu vous donnera la victoire. Montez à Ramoth en Galade, et là Dieu vous donnera cette chose. L'un d'eux se fabriqua une paire de cornes, et pour illustrer ce qu'il disait, il commença à courir en rang, prophétisant, par ces cornes de fer, vous les chasserez hors du pays, car il vous appartient. Mais vous savez, il y a quelque chose chez un homme de Dieu qui fait qu'il ne s'emballe pas pour tout cela. Vous voyez, si ce n'est pas absolument conforme à l'Écriture, c'est qu'il y a quelque chose de faux. N'importe quel croyant véritable. Alors Joseph a dit, « Eh bien, ces 400 hommes ont l'air très bien, ils semblent être de braves gens. »« Oh, ils le sont, » dit peut-être Akab. Mais Joseph a repris, « N'en avez-vous pas encore un ?»« Pourquoi encore un, quand vous en avez 400 qui sont d'un même accord ?» Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui ne sonnait pas tout à fait juste. Vous voyez ? Akab dit, « Oui, nous en avons un de plus, le fils de Jimla, mais je le hais. » Bien sûr, il fermera son église chaque fois qu'il le pourra. Il le chassera du pays, vous voyez. Bien sûr que je le hais. Pourquoi le hais-tu? Il prophétise toujours de mauvaises choses contre moi. Je crois que Josaphat fut à ce moment-là que quelque chose ne marchait pas bien. Alors il dit, allez chercher Michée. Ils montèrent donc le chercher, le voici qui descend. Or, quand ils étaient montés, ils avaient envoyé un messager lui dire, « Maintenant, attends une minute, ils ont là-bas 400 docteurs en théologie. Ce sont les meilleurs du pays, avec des diplômes et tout. » Alors tu comprends, toi, pauvre petit homme irrélettré, ne va surtout pas contredire tout ce clergé. Jim l'a dit ceci, ou je veux dire, Miché dit ceci, « Je ne dirai rien jusqu'à ce que Dieu mette des paroles dans ma bouche, et alors je dirai exactement ce qu'il m'aura dit. » J'aime cela. J'aime cela. En d'autres termes, je m'en tiendrai à la parole. Peu importe ce que disent les autres. Bien, lui dit-on, je t'avertis. Si tu ne veux pas être jeté dehors, tu feras bien de dire la même chose. Ainsi, il descendit là-bas, et le roi lui dit, dois-je monter? Il dit, vas-y. Mais il dit, accorde-moi cette nuit, laisse-moi en parler avec le Seigneur. J'aime cela. Cette nuit-là, le Seigneur lui est apparu, et le lendemain, il alla vers lui et dit, « Vas-y, mais je vois Israël comme des brebis sans berger dispersées sur la colline. » Oh là là, cela le décompte dans ça. Et Achab dit à Josaphat, « Ne t'avais-je pas dit ? Je le savais. Il fait tout le temps la même chose, disant de mauvaises choses contre moi. Pourquoi il restait avec la parole ? Pourquoi un prophète avant lui, Élie, le vrai prophète, par lequel la parole de Dieu était venue, avait dit, « Parce que tu as versé le sang innocent de Naboth, les chiens lècheront aussi ton sang. » Elle prononça contre lui des paroles de malédiction. Élie était allé au ciel, mais Miché savait qu'Élie avait la parole de Dieu. Aussi resta-t-il avec la parole. J'aime cela. Restez avec la parole. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sa puissance est encore la même. Le Saint-Esprit est pour quiconque le désire qu'il vienne. Demeurez avec la parole. Oui, monsieur. Peu importe ce que disent les autres, aussi bien qu'ils puissent avoir été nourris, et quel que soit le nombre des écoles qu'ils aient fréquentées, cela n'a rien à voir avec ces choses. Alors il dit, ce grand gaillard avec ses cornes sur la tête, qui devait les chasser du pays devant le roi, s'avança vers lui et le frappa sur la bouche, ce petit prédicateur de rien. Il savait qu'il était juste, un petit exalté, et que pas un mot ne serait dit à ce sujet. C'est pourquoi il le frappa sur la bouche et dit, « Je veux te demander quelque chose. Par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour que tu l'aies reçu ?» Michel dit, « Tu le comprendras quand tu auras été emprisonné là-bas. » Il dit, « J'ai vu Dieu assis sur un trône. » Amen. Écoutez maintenant. Et l'armée des cieux était rassemblée autour de lui. Qu'est-ce qui se passait? Son prophète avait déjà dit ce qui allait arriver à Achab. Ce n'était pas Élie qui disait cela, c'était le prophète oint. C'était la parole du Seigneur, le ainsi dit le Seigneur. Et Miché dit, j'ai vu toute l'armée des cieux réunie autour de Dieu dans une grande conférence. Ils parlaient entre eux, et l'Éternel dit, qui pouvons-nous envoyer? Lequel de vous veut descendre tromper Achab, afin qu'il aille là-bas se faire tuer pour accomplir la parole de Dieu? Qui pouvons-nous envoyer? On proposait celui-ci ou celui-là. Au bout d'un moment, un mauvais esprit de mensonge vint d'en bas et dit, « Si vous permettez, je suis un esprit de mensonge et je vais descendre. Je pénétrerai dans tous ces prédicateurs parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et je ferai en sorte qu'ils, ce ne sont que des hommes qui ont été formés par une école, je descendrai, j'entrerai dans chacun d'eux, je les séduirai et je les ferai prophétiser un mensonge. A-t-il bien dit cela? Elle dit, c'est ainsi que nous le séduirons. Elle descendit. Dieu lui dit, tu as ma permission de partir. Il descendit donc, entra dans ses faux prophètes formés dans une école, elle les fit prophétiser un mensonge. C'était un esprit de mensonge agissant selon la volonté de Dieu. Voilà encore quelque chose que peut-être vous... Regardez d'ici une minute. Observez ceci. Je désire que vous ouvriez vos Bibles un instant avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Et observez ceci. Si vous voulez voir Dieu faire en sorte que quelque chose et comment ces mauvais esprits agissent. Très bien. C'est Paul qui parle. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Que pensez-vous d'une telle chose dans l'Église? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Attendez, je crois que j'ai tourné deux pages à la fois. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Maintenant, attendez un moment, suis-je? Oui, c'est bien cela, dans l'affliction, c'est cela. Enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Je ne sais pas, je ne crois pas que quelqu'un contesterait ceci, mais je défends seulement ce que je crois. Si un homme est une fois rempli de l'esprit, il ne peut pas le perdre. Voyez-vous? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu dit à la Sainte Église, qui est son corps sur terre, que maintenant ceci se trouve dans le Nouveau Testament. Il est parlé d'un homme qui était si corrompu et souillé qu'il vivait avec la femme de son propre père. Il dit une telle chose dans le corps de Christ, vous, l'Église, livrez-le au diable pour la destruction. Vous voyez, Dieu permet que, et quand il veut donner le foi à quelqu'un parce qu'il le juge nécessaire, il lâche un mauvais esprit sur lui afin de tourmenter cette personne et la faire revenir. Maintenant, nous voyons que cet homme, après, c'est ce qui se passe avec les Églises aujourd'hui, que un homme entre dans le corps de Christ, devient de ses membres et commence à mal agir, au lieu de vous rassembler tous et de faire exactement la même chose, vous, Branham Tabernacle, faites-le. Parce qu'aussi longtemps que vous le soutenez, il est sous le sang et continuera à agir comme avant. Réunissez-vous et livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et observez le fouet de Dieu qui commence à agir. Observez le diable se saisir de lui. C'est un mauvais esprit qui va s'en occuper. Nous voyons que l'homme dont il a parlé s'est mis en ordre. Il est revenu. Nous découvrons dans 2 Corinthiens qu'il s'est vraiment mis en ordre avec Dieu. Regardez Job, un homme parfait, un homme juste. Dieu a permis au diable de venir sur lui, de le châtier et tout le reste pour le perfectionnement de son esprit. Vous voyez, ainsi les mauvais esprits ont... Dieu utilise souvent de mauvais esprits pour mener à bien son plan et sa volonté. Maintenant, voici une question qui est vraiment une colle. La voici. Je crois que cela provient de la même personne parce que l'Écriture paraît la même. Si une personne doit avoir le Saint-Esprit pour être convertie, être enlevée, quel sera l'état des enfants qui sont morts avant l'âge de raison? Et quand ressusciteront-ils? Maintenant, mes frères et mes sœurs, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux trouver aucun passage à ce sujet dans la Bible. Mais je puis vous dire ce que je pense. Et cela vous fortifiera, vous qui croyez dans la grâce de Dieu. Vous voyez, cette personne désire savoir, c'est une très bonne question, vous savez. Cette personne désire savoir dans quelle résurrection ce qui arrivera à un bébé, lequel, s'il doit avoir le Saint-Esprit pour être enlevé, comme je l'ai dit, c'est juste, cela est conforme à la Bible, c'est l'enseignement de l'Écriture. Il ne s'agit pas du fait d'aller au ciel, parce que les gens remplis du Saint-Esprit font partie de la première résurrection, les élus. Et le reste de ceux, le reste des morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après le millénium a lieu la seconde résurrection, le jugement du grand trône blanc. Vous voyez? C'est exactement l'ordre de la Bible. Mais cette personne veut savoir ce que deviennent ses bébés. En d'autres termes, avait-il le Saint-Esprit avant de naître? L'avait-il reçu? Maintenant, cela, je ne peux vous le dire. Mais maintenant, laissez-moi vous le dire ainsi. Nous savons que les bébés qui meurent, peu importe ce que sont leurs parents, sont sauvés. Or, je ne suis pas d'accord à ce sujet avec l'école des prophètes. Ils disent que si ce bébé meurt, alors que ses parents sont pécheurs, il ira en enfer. Il tombera en pourriture et que ce sera fini avec lui. Eh bien, quand Jésus est venu, Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce bébé, étant un être humain, devait tomber sous le jugement de Dieu. Mais Jésus est mort pour ôter le péché. Tous les péchés furent effacés devant Dieu lorsque Jésus mourut. Vos péchés ont été pardonnés, mes péchés ont été pardonnés. Et le seul moyen pour vous d'être pardonné, c'est d'accepter son pardon. Mais le bébé, lui, ne peut pas accepter son pardon parce qu'il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Aussi est-ce tout à fait librement qu'il va au ciel. Mais vous direz, seront-ils enlevés? Maintenant, voici ce que je dis. Voici ma pensée. Je ne peux pas prouver ceci par la Bible. Mais regardez. Si Dieu, avant la fondation du monde, connaissait chaque être humain qui devait exister sur la terre, le croyez-vous? Il connaissait chaque moustique, chaque puce, chaque mouche. Il savait tout ce qui viendrait sur la terre. Il savait cela. Regardez, prenons Moïse par exemple. Quand Moïse naquit, il était prophète. Avant que Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu sois formé dans son sein, je te connaissais, je t'avais sanctifié, je t'avais consacré prophète pour les nations. 712 ans avant que naisse Jean-Baptiste, Ésaïe le vit en vision et lui dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. La prédestination ou la préscience de Dieu, c'est tout ce qui concerne les petits bébés. Vous voyez, tout ce qu'il devait faire, et il savait qu'il mourrait, il le savait. Rien ne peut arriver sans que Dieu le sache. Rien ne peut arriver à exactement comme le bon berger, comment il va. Maintenant, pour en revenir à l'Écriture, je ne veux pas vous dire que l'Écriture dit ceci ou cela. Je parle simplement d'après ma pensée. Maintenant, je pense que la question suivante est posée par quelqu'un au sujet de ce que j'ai dit l'autre soir. Expliquez comment une femme est sauvée en devenant mère. L'épouse n'est pas sauvée en devenant mère. Mais prenons juste un instant 1 Timothée 2,15 et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Maintenant, je sais que c'est une doctrine catholique, que les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité. Pour ma part, je ne crois pas cela. 1 Timothée chapitre 2 et commençons au verset 9 et lisons. Très bien. Écoutez, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Nous ne devrions pas avoir à demander cela, n'est-ce pas? Écoutez ceci. Avec pudeur. Et modestie ne se pare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mes frères, je suis en train de vous aider ici, j'espère. Tous ces chapeaux renouvelés tous les jours ou tous les 3 jours, vous voyez, ça ne convient pas à des chrétiennes. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam était formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si... Il ne parle pas de la femme mondaine ayant des enfants. Si elle persévère dans la foi. Vous voyez, si elle persévère, elle est déjà... C'est de cette femme-là qu'il parle, la femme est déjà sauvée. Vous voyez, dans la charité et dans la sainteté. ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais le fait d'élever ses enfants, de faire son devoir, non pas d'élever des chats, des chiens ou autres pour prendre la place d'un enfant comme elles le font aujourd'hui, leur donnant un amour maternel pour pouvoir sortir toute la nuit. Certaines personnes font cela. Je regrette, mais elles le font. C'est tellement rude pour moi de le dire, mais la vérité est la vérité. Vous voyez, elles ne veulent pas avoir d'enfant pour être liées par lui, mais par la maternité, si elles persévèrent dans la foi, la sainteté et en toute sobriété, elle sera sauvée. Mais le « si » veut dire que vous serez sauvés aussi si vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez être guéri si vous croyez. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous croyez en lui, si vous êtes préparé en vue de cela. Et elle sera sauvée si elle continue à faire tout cela. Vous voyez, mais pas parce qu'elle est une femme. Ainsi, c'est vrai, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout un enseignement catholique. Maintenant, voici une autre question qui est très ardue, puis nous en avons une autre. Je pense que peut-être nous aurons le temps d'y répondre, bien que notre temps soit écoulé. Maintenant, ces questions sont simplement les suites du réveil. Ce sont les répercussions des réunions. Maintenant, frère Branham, cet appel à machine, est-ce scripturaire qu'une personne parle en langue et interprète son propre message? Si oui, veuillez expliquer 1 Corinthiens 14, 19 et aussi Corinthiens 14, 27. Très bien, lisons ce passage de l'Écriture et voyons ce qu'il dit. Et alors, nous verrons si nous gardons ceci scripturaire. Nous voulons toujours être scripturaires. 1 Corinthiens 14, la personne veut savoir s'il est conforme aux Écritures qu'un homme interprète son propre message qu'il a parlé en langue. Si oui, expliquez 1 Corinthiens 14, 19. Voyons, 14, 19, très bien, nous y voici. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire sa parole avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Maintenant, le suivant est le verset 27 qu'ils veulent connaître. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. J'en viens maintenant à ce que la personne essaie de savoir. Je vais vous lire quelque chose à ce sujet dans un instant, mais je pense que ce que le frère ou la sœur essaie de savoir est ceci. Est-ce juste que quelqu'un qui parle en langue d'interpréter aussi le message qu'il a délivré? Maintenant, cher ami, si vous voulez bien lire le 13e verset du même chapitre, il vous le dira. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Certainement, il veut interpréter son propre message. Maintenant, lisez-le en entier ici, et vous verrez, lisez tout ce chapitre, c'est très bien et très explicite. Donc, le parler en langue, maintenant, pendant que nous sommes sur ce sujet, et ceci est entendu, je veux dire que je crois tout autant au parler en langue que je crois à la guérison divine, et au baptême du Saint-Esprit, à la seconde venue de Christ, et à la puissance du monde à venir. Je crois autant à cela que dans les autres choses, mais je crois que le parler en langue a sa place, comme la venue du Christ a la sienne, que la guérison divine a sa place, de même que chaque chose a sa place. Or, maintenant que j'en ai l'occasion, j'aimerais vous dire ceci et vous l'expliquer. Et si je blesse quelqu'un, sachez que je ne le fais pas intentionnellement. Je n'ai pas le désir de créer de la confusion. Mais écoutez, ce qui s'est passé avec le parler en langue inconnu chez les pentecôtistes, ce que je suis moi-même, vous voyez, Maintenant, tout le trouble vient de ce qu'ils ne respectent pas ces choses. Et d'autre part, ils laissent cela aller sans direction bien définie. Ils ne reviennent pas à la parole. Maintenant, écoutez, voici comment l'Église est établie. Dans une Église pentecôtiste, si j'étais pasteur de cette Église, je vais vous dire comment je l'établirais. Vous voyez, si j'étais tout le temps ici pour m'en occuper, je souscrirais à tous les dons dans la Bible. Je dirais aux croyants d'être d'abord baptisés dans le Saint-Esprit, et puis tous les dons de 1 Corinthiens 12 devraient opérer dans mon Église, si je pouvais les avoir là, afin que le corps entier fonctionne. Si vous faites attention, et je ne dis pas ceci pour critiquer, et souvenez-vous, je ne dirai jamais rien de contraire, de peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et Dieu sait que je ne dirai jamais quelque chose de faux, vous voyez. Je vous dis simplement ceci pour vous donner le point de vue de l'Écriture après avoir étudié celle-ci pendant près de 20 ans. Cela fait près de 30 ans que je prêche. J'ai dû faire face à un tas de choses. Vous pouvez vous imaginer ce que cela représente. J'ai observé chaque homme, chaque doctrine à travers le monde. Je l'ai fait parce que je m'y intéressais. Cela intéresse d'autres êtres humains que moi. Un jour, je devrais m'en aller, vous devrez vous en aller. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai les vôtres avec la mienne. Aussi, cela vaut plus que le pain quotidien, plus que la popularité, plus que n'importe quoi d'autre. C'est pour moi une question de vie, vous voyez. Et je veux toujours être profondément sincère. Maintenant, si vous entrez dans une église pentecôtiste, la première chose, je ne veux pas dire que c'est ainsi dans toutes, certaines d'entre elles sont... En général, vous entrez dans une église et vous commencez à prêcher. Pendant que vous prêchez, quelqu'un se lèvera et parlera en langue. Remarquez, cette chère personne peut être parfaitement remplie du Saint-Esprit. Et peut-être est-ce le Saint-Esprit qui parle par cette personne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas instruits. Si le prédicateur sur l'estrade parle sous l'inspiration, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez, que tout se fasse. Maintenant, reportez-vous à Paul quand il dit « quand on parle ». Et ainsi de suite, quand il est entré, il n'y avait que confusion. Il s'est trouvé que je sois en train de faire un appel à l'autel et que quelqu'un se lève et parle en langue. Dans ce cas, vous feriez tout aussi bien de cesser de faire votre appel à l'autel. Ça l'interrompt, vous voyez. Autre chose encore, très souvent, des gens se lèvent et parlent en langue, tandis que d'autres qui sont là, qui sont assis, mâchent du chewing-gum en regardant autour d'eux. Si Dieu parle, restez tranquille, écoutez. Si c'est la vérité, si c'est le Saint-Esprit qui parle par cette personne, restez tranquille, écoutez, soyez respectueux. L'interprétation pourrait venir à vous voyez. Restez tranquillement assis, écoutez et attendez l'interprétation. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, alors ils sont censés garder le silence dans le corps. Et alors quand ils parlent en une langue inconnue, la Bible dit qu'ils se parlent à eux-mêmes et à Dieu. Celui qui parle dans les langues inconnues s'édifie lui-même. Maintenant, ce sont des langues inconnues. Les dialectes, les langages, c'est différent. Paul dit, ce n'est rien, mais tout ce qui produit un son a une signification. Si vous entendez une trompette, vous devez savoir ce que cela veut dire. Vous soufflez simplement dedans, ou vous ne saurez pas comment vous préparer pour la bataille. Si quelqu'un parle en langue et produit simplement un son, si tout est là, qui saura ce qu'il faut faire? Mais si elle commence à claironner la diane, ça signifie, levez-vous! Si elle sonne l'insection des feux, ça signifie « couchez-vous ». Vous voyez? Si elle sonne la charge, ça signifie « chargez ». Cela doit avoir une signification. Et non seulement émettre un son. De même, dans l'Église, s'il n'y a pas d'interprète, mais quand il y a un interprète, alors les langues appartiennent au sein de l'Église. Maintenant, pour en revenir à votre question, cher ami qui dit « je préférerais parler sans parole », que les gens puissent comprendre plutôt que 5000 ou quel que soit le nombre dans une langue inconnue, c'est vrai. Mais continuez à lire, sauf si c'était par révélation ou par interprétation pour l'édification. Vous voyez? Pour édifier. Maintenant, je vais simplement vous donner un petit aperçu de ce que, s'il devait être le pasteur de cette église à venir, si Dieu m'appelait à en être le pasteur, voici de quelle façon je la dirigerais. J'essaierais de trouver chaque personne ayant un don, et je ferais que ces gens se rencontrent environ une heure avant que les services commencent. dans une pièce réservée pour eux, qu'il te place sous l'esprit. Et voici quand vient, il a un don de parler en langue. Elle parle en langue. Chacun se tient tranquille. Et ensuite, un se lève et interprète ce qu'il a dit. Maintenant, avant que cela puisse être donné à l'Église, la Bible dit que cela doit être jugé entre deux ou trois témoins. Ce sont des hommes qui ont le discernement d'esprit. Vous voyez? Parce que très souvent, des puissances maléfiques s'y introduisent. Paul en a parlé. Mais alors, la puissance de Dieu y est aussi. Citez-moi une assemblée où le mal ne s'y trouve pas. Dites-moi où les fils de Dieu sont rassemblés sans que Satan soit au milieu d'eux. C'est dans tout. Ainsi, ne froncez pas les sourcils. Voyez-vous, Satan est partout. Maintenant, nous y voici. Quelqu'un parle en langue. Or, il y en a trois qui sont assis là et qui ont l'esprit de discernement. Un parle en langue et donne un message. Maintenant, cela ne peut pas être une citation de l'Écriture, parce que Dieu n'emploie pas de vaines redites et nous a dit de ne pas le faire. Vous voyez, ainsi, ce n'est pas cela, c'est un message à l'Église. Jusqu'ici, dans ce réveil, nous avons vu deux choses. Remarquez que chacune d'elles fut parfaite et tout à fait à propos. Vous voyez, il se mit à agir. Un homme s'est levé à parler en langue et donner l'interprétation, et cela venait confirmer le message qui venait d'être donné. Un autre s'est levé l'autre soir et a dit quelque chose sous l'inspiration de la prophétie, ne sachant pas ce qu'il disait. Et alors à la fin, il dit, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Aussitôt, quelque chose me saisit, disant, autrement dit, « Béni soit celui qui croit que c'est le Seigneur qui est venu. » Voyez-vous l'interprétation? Puis le Saint-Esprit tomba dans cette salle hier soir. Vous voyez, c'est pour l'édification. Je me tenais là, essayant de dire aux gens qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et le diable est venu autour de ces gens, leur disant, « N'écoutez pas, restez tranquilles. » Ma sœur me dit, « Bill, j'étais si heureuse pendant que tu prêchais. Je me sentais comme si je pouvais me lever et sauter à travers le mur. » Je dis, « Lève-toi et saute, voilà tout. » Elle dit, « Mais alors que tu continuais, les gens commençaient à pousser des cris. Alors je me suis sentie comme si j'étais une vieille chose inutile. » Je dis, « C'est le diable, c'est Satan. » Quand il est entré, pour faire cela, tu aurais dû te lever de toute façon. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu, offrant un sacrifice spirituel. Le fruit de nos lèvres donnant gloire à son nom. Vous voyez? Alors voici ce qui est arrivé. Alors le Saint-Esprit est venu, parce que c'était simplement « Béni soit celui qui croit ». Deux ou trois soirs de suite, j'ai essayé d'exposer cela ici. Et alors le Saint-Esprit a parlé et dit, sous l'inspiration, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, je l'avais répété. « Béni soit celui qui croit que le Seigneur est venu en ceci. » Et je venais tout juste de dire ceci, que le Saint-Esprit est Dieu lui-même en vous. Vous comprenez? Et ils l'ont saisi. Et alors le Saint-Esprit est descendu parmi les gens. Vous voyez comment il édifie par la prophétie? Or, il y a une différence entre une prophétie et un prophète. La prophétie va de l'un à l'autre, mais un prophète naît prophète dès le berceau. Ils ont le « ainsi dit le Seigneur ». On n'a pas à les juger. Vous ne les voyez pas devant Ésaïe ou Jérémie ou aucun des prophètes parce qu'ils avaient le « ainsi dit le Seigneur ». Mais un esprit de prophétie parmi les gens, vous devez le surveiller parce que Satan s'y glissera. Vous voyez? Mais il doit être jugé. Nous allons donc avoir un réveil. Maintenant, observez ceci de très près, vous les prédicateurs. Disons que nous avons un réveil. Très bien, ou peut-être avons-nous simplement un service régulier de l'Église. L'Église est en feu. Elle devrait l'être tout le temps. Bon, peut-être avons-nous 5 ou 6 personnes qui ont des dons. L'une parle en langue, 2 ou 3 peut-être parlent en langue, 4 ou 5 ont le don des langues et parlent en langue inconnue. 2 ou 3 d'entre elles peuvent interpréter. Peut-être y en a-t-il 1, 2 ou 3 d'entre elles qui ont le don de sagesse. Très bien. Elles se rencontrent toutes, ces personnes ayant des dons. Ces dons ne vous sont pas donnés pour que vous jouiez avec eux, ou vous disiez « Gloire à Dieu, je parle en langue, Alléluia !» Vous vous dégradez vous-même. Ils vous sont donnés pour que vous travailliez avec eux. Et votre participation dans l'Église devrait avoir lieu avant que le service principal commence, parce que les ignorants vont être parmi nous. Alors vous allez à part dans une pièce, et vous asseyez là ensemble, parce que vous êtes co-ouvriers dans l'évangile. Alors vous êtes là, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux nous faire connaître ce soir? Parle-nous, ô Père Céleste. Offrons des prières, des supplications, chantons des cantiques. Bientôt l'Esprit des Saints se pose sur quelqu'un. Celui-ci se met à parler en langue. On se lève et dit, ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce donc? Écoutez. Allez dire à Frère Jones de partir de l'endroit où il habite. Car demain après-midi, il y aura un cyclone qui balayera ce pays. Et cela va emporter sa maison. Qu'il prenne ses biens et s'en aille. Maintenant, cela paraît très bien. Mais attendez une minute. Il doit y avoir là trois hommes qui ont l'esprit de discernement. L'un de dit, c'était du Seigneur. L'autre dit, c'était du Seigneur. C'est deux sur trois, deux ou trois témoins. Bon, ils écrivent cela sur un morceau de papier. C'est ce que l'Esprit a dit. Très bien, ils se remettent à prier en remerciant le Seigneur. Un moment après, ainsi dit le Seigneur. Un prophète se lève. Ainsi dit le Seigneur. Ce soir, il y aura une femme venant de la ville de New York. Elle sera sur un brancard. Elle entrera dans la salle sur un brancard. Elle a un foulard vert autour de la tête. Elle se meurt du cancer. Ce qui a provoqué cela chez elle, et le Seigneur a cela contre elle, c'est qu'une fois, lorsqu'elle était âgée de 16 ans, elle vola de l'argent à son église. Dites à Frère Branham de lui dire ces choses. Ainsi dit le Seigneur, si elle répare cela, elle sera guérie. Attendez une minute. Cela paraît terriblement bien, mais attendez une minute. Allez-vous inscrire votre nom sur ce papier, vous qui discernez? Allez-vous y mettre votre nom? C'était du Seigneur, dit l'un. C'était du Seigneur. Alors vous l'écrivez. Ainsi dit le Seigneur, ce soir, une femme viendra, il y aura telle et telle chose. C'est avec le discernement d'esprit, deux ou trois d'entre eux signent leur nom à cela. Tous ces messages sont donnés. Très bien. Puis, après un moment, ils entendent la cloche se mettre à sonner. La réunion va commencer. Alors, ils apportent les messages, les posent ici, sur le pupitre. C'est à cet endroit précis qu'ils sont censés se trouver. Je suis à l'écart, quelque part, qui étudie et prie. Ensuite, un moment après qu'on ait chanté les cantiques, je sors. L'église est tout à fait dans l'ordre. Les gens viennent, s'asseyent, méditent, prient. C'est ce que vous êtes censé faire. Ne venez pas à l'église pour parler l'un avec l'autre. Venez à l'église pour parler à Dieu. Ayez vos relations fraternelles en dehors de l'église, vous voyez? Ici, nous sommes en communion avec Dieu. Nous venons ici pour parler à Dieu. Faites tout silencieusement, avec respect. L'Esprit est en train d'agir. Le pianiste vient au piano environ 5 minutes avant qu'on entame les chants du service. Elle commence à jouer tout doucement. Au pied de la croix, où mourut mon Sauveur, j'ai demandé d'être purifié du péché, ou quelque autre cantique vraiment mélodieux. Cela amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. Vous voyez? Très bien. Les gens sont assis là. Certains d'entre eux commencent à pleurer, viennent à l'autel et se repentent avant même que le service ne commence. Le Saint-Esprit est là, vous voyez, l'Église est en travail. Les chrétiens prient, ils ont pris leur position. Ils ne sont pas assis là à mâcher du chewing-gum et à dire, « Hé, Lydie, prête-moi ton rouge à lèvres. J'aimerais, tu sais, j'ai besoin de, tu sais, l'autre jour que je faisais mes courses là-bas, j'étais presque marché sur les pieds et j'avais vu une telle. Que penses-tu de cela? » Oh, miséricorde! Et vous appelez cela la maison de Dieu? Quelle honte! Le corps de Christ réunissant. Nous sommes assis là. L'homme à côté de vous dira peut-être, « Dis donc, tu te souviens que nous étions là-bas et patati et patata. » C'est en ordre de le faire au dehors, mais ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Venez en priant, prenez vos positions. Maintenant, je ne parle pas à vos églises, frère. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je parle à ce tabernacle. Je prêche à mes fidèles. Vous voyez, c'est cela. Alors que vous entrez comme cela, bientôt le pasteur sort. Il est tout frais. Il n'est pas obligé de répondre à ceci ou à cela. Il sort directement de la rosée de son ministère. Il a été sous la puissance du Saint-Esprit. Il entre là où davantage de langues de feu sont rassemblées. C'est presque une colonne de feu maintenant, vous voyez, qui se déplace ici et là. Il sort bien ici, elle prend ceci. Un message à l'Église. Ainsi dit le Seigneur. Frère Jones doit quitter sa maison. Demain après-midi à 2 heures, un cyclone balayera son terrain. Qu'il prenne ses affaires et s'en aille. Frère Jones a compris. Bon, c'est enregistré. Ensuite, ainsi dit le Seigneur, il y aura une dame de tel ou tel nom qui viendra ici ce soir, et elle a fait une certaine chose. Comme je viens de le dire, vous voyez, comme cela. Très bien, cela reste là, c'est cela. Maintenant, ils ont déjà pris leur position dans l'église. C'est très bien. Alors, il prend le message, le voit qu'il commence à prêcher. Rien ne doit interrompre. Cela a déjà eu lieu. Maintenant, nous allons de l'avant. Nous avons prêché le message. Et un moment après, une fois le message terminé, la ligne de prière pour la guérison commence. Voici venir une femme. Quelqu'un, ayant parlé en langue, avait dit qu'elle viendrait. Vous voyez, chacun de nous sait ce qui va arriver. Chacun de nous le sait. Voyez comment la foi commence à grandir avec ces lampes de feu qui se tiennent maintenant au-dessus de vous. Elles commencent à s'accumuler. Parce qu'il s'agit simplement d'une œuvre achevée. Voilà tout. Je dirai à cette femme, madame, une telle de New York City, qui est ici. Vous voyez? Oh, c'est vrai! Comment le saviez-vous? C'est un message du Seigneur à l'Église. Quand vous aviez 16 ans, n'étiez-vous pas à tel endroit, et n'avez-vous pas pris de l'argent à l'Église, et ne l'avez-vous pas volé, ensuite vous êtes sorti, et êtes allé vous acheter avec cela de nouveaux habits? Oh, c'est vrai! C'est vrai! C'est exactement ce que Dieu nous a dit ce soir par la bouche du frère Antel qui a parlé en langue. Le frère Antel a interprété. Le frère Antel ici a dit par le discernement que cela venait du Seigneur. Et c'est la vérité? Oui. Alors, ainsi du Seigneur, allez, mettez cela en ordre et vous guérirez de votre cancer. Frère Jones, va chez lui, prends les remords, recule, cherche ses meubles et pars de là. À 2 heures le lendemain après-midi, ouf, et tout est dévasté. Vous voyez? Alors l'Église glorifie. Merci, merci Seigneur Jésus de ta bonté. C'est cela, c'est pour édifier l'Église. Maintenant, qu'arrive-t-il si ce qu'ils ont dit n'arrive pas? Alors c'est qu'il y a un mauvais esprit parmi vous. Vous ne voulez pas cette mauvaise chose. Pourquoi voudriez-vous quelque chose de mauvais quand les cieux sont pleins de ce qui appartient à la véritable Pentecôte? Ne prenez pas de ces vieilles imitations du diable. Procurez-vous quelque chose d'authentique. Dieu l'a pour vous, alors n'ayez plus de réunion et ne mettez plus rien ici jusqu'à ce que Dieu confirme premièrement que vous êtes droit, parce que vous êtes une aide utile à l'Église dans l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, comprenez-vous ce que c'est? Et ces langues inconnues, aucun homme ne sait de quoi il parle. Il parle, mais chaque son a une signification. Cela a une signification. Bout, 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 cela représente un langage quelque part. Quand j'étais en Afrique, je n'aurais jamais cru, mais tout ce qui faisait du bruit avait une certaine signification. La Bible dit qu'il n'y a pas de son sans signification. Chaque son que se fait entendre signifie quelque chose. Si je disais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'un de ferait bouba 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 bouba, un autre ferait oukouk, 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 et cela voudrait dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez? Et cela ne signifie rien pour moi, mais pour eux, c'était un langage, tout comme celui que j'utilise pour vous parler. Qu'on interprète des Zoulous, des Kosas, des Bantous, et quoi qu'on traduisait, chacun comprenait tout ce qui était dit. Et ces choses que vous entendez les gens marmotter, et que vous prenez pour du bredouillage, en réalité, ce n'en est pas. Cela a une signification. Aussi devons-nous respecter cela, et le mettre à sa place. Maintenant, peut-être, n'y a-t-il pas eu de message. Le service est donc terminé, l'appel à l'hôtel ayant été fait. Un moment après, il n'y a pas eu de message là-bas derrière. Quelqu'un se lève aussitôt qu'il en a l'occasion. Le Saint-Esprit, or la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Peu importe combien vous désirez parler, taisez-vous. Vous dites, je ne le peux pas. La Bible dit que vous le pouvez. Vous voyez, ainsi le cas est réglé. Vous comprenez qu'il se taise. Mais quand tout est en ordre et que l'occasion lui est donnée, alors si le Saint-Esprit descend sur lui pour qu'il donne un message, qu'il le donne. C'est exactement ce que vous devriez faire. Ensuite, l'interprétation vient dit, il y a ici une femme qui se nomme Sally Jones. J'espère qu'il n'y a pas de femme ici qui porte ce nom. Sally Jones, vous voyez, dites-lui que c'est le dernier soir où un appel lui est adressé. Qu'elle se mette en ordre avec Dieu parce qu'il ne reste plus que pour peu de temps ici. Maintenant, Sally Jones viendra à l'hôtel aussi vite qu'elle le peut, vous voyez, parce que c'est son dernier appel. Vous comprenez, c'est cela, donner un message ou une confirmation ou quelque chose. Voilà une église pentecôtiste en action. Les mauvais esprits n'ont aucune possibilité de pouvoir s'exister, parce qu'elle est déjà, la Bible indique exactement ce qu'il faut faire, que trois parlent chacun son tour, et que deux ou davantage jugent. C'est cela, l'église. Mais comment la trouvons-nous aujourd'hui, remplie de gens qui sautent, se conduisent mal, rient pendant que quelqu'un parle en langue, tandis que d'autres regardent autour d'eux et continuent à parler de choses et d'autres? Le pasteur, lui, est en train de faire quelque chose, alors que quelques-uns s'affairent dans la salle. Cela n'est pas bien. Le pasteur est peut-être en train de prêcher et quelqu'un se lève et l'interrompt dans le... Il se peut qu'il lise la Bible et que quelqu'un dans la salle parle en langue. Oh non, vous voyez, la prédication est à la chair. Le prédicateur est à la chair en train de prêcher. Quelqu'un se lève et l'interrompt en parlant en langue. Cela peut être très bien, je ne dis pas que je ne sois pas le Saint-Esprit, mais vous devriez savoir comment employer le Saint-Esprit. Comprenez-vous comment l'employer? Maintenant, je prends, avez-vous le temps pour une de plus? D'ailleurs, demain, c'est dimanche. Alors, nous prenons simplement, en voici une, je pense que c'est la meilleure. Et maintenant, supportez-moi encore quelques minutes, je vous en prie. Je désire que vous compreniez ceci. C'est à dessein que je l'ai gardé pour la fin. C'est la dernière que je prendrai. Je vais d'abord lire les deux choses que la personne a demandées. C'est sur un vieux morceau de papier, mais c'est une magnifique écriture. Je n'ai aucune idée de qui cela peut venir. Il n'y a pas de nom sur aucune des deux. Frère Branham, est-il convenable pour des pasteurs de faire de longs appels d'argent pendant leur service, déclarant que Dieu leur avait dit que tant de personnes dans l'assistance étaient censées donner tant et tant? J'aimerais savoir si cela est juste. Ou alors, si cela est faux, je désire le savoir. Cela me trouble terriblement. À présent, vous voyez, mes amis, je vais vous le dire ce que je pense. Vous voyez, or, cela ne veut pas dire que c'est juste. Je pense que c'est épouvantable. Voici ma pensée. Dieu m'a envoyé sur le champ de travail. J'ai connu le temps où il semblait que je serais au moins... Et je n'avais pas d'argent du tout. Je disais, faites simplement la caisse. Et l'administrateur venait me dire, écoute, Billy, nous avons un déficit de 5 000 $ ce soir, mon ami. As-tu l'argent à Jefferson Ville pour le payer? Je répondais, c'est en ordre. Dieu m'a envoyé ici, sans cela, je ne serais pas venu. Passez simplement pour la collection, pour la collecte. Et avant que la réunion ne soit terminée, quelqu'un disait, vous savez, le Seigneur a mis sur mon cœur de donner pour cela 5 000 $. Vous voyez, mais il faut d'abord que vous soyez conduits à le faire. Je ne crois pas dans cette manière de soutirer, de mendier, de se faire donner de l'argent. Je pense que c'est faux. Maintenant, frère, si vous-même le faites, que je ne vous frappe pas en disant cela, voyez-vous, vous pouvez avoir reçu de Dieu le droit de le faire. Je donne simplement mon avis. Personnellement, je ne crois pas en cela. J'ai même connu des prédicateurs qui disaient, je me suis trouvé moi-même il n'y a pas longtemps. À présent, ce n'était pas des pentecôtistes, c'était, eh bien, il venait d'autres églises. C'était lors d'un grand rassemblement en plein air. Gertie, vous étiez avec moi et beaucoup d'autres qui se trouvent ici. Elles consacrèrent tout l'après-midi lors d'une grande convention d'une fameuse dénomination. Il s'agit des églises habituelles, comme nos églises modernes ici dans la ville. Et deux ou trois d'entre eux passèrent tout l'après-midi debout sur l'estrade à les menacer de ce que Dieu détruirait leur récolte, frapperait leurs enfants de polio et des choses de ce genre s'ils ne donnaient pas d'argent lors de cette réunion. C'est l'exacte vérité. Cette Bible se trouve devant moi. Je dis, c'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. S'il ne vous a pas envoyé, alors que la dénomination s'occupe de vous. Mais vous, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Que pensez-vous d'une représentation de Noël dans une église du Saint-Esprit? Eh bien, si la représentation est sur le Christ, cela peut être en ordre. Mais si elle est sur Saint-Nicolas, le Père Noël, je ne crois pas en lui. Je suis devenu trop grand pour cela. Je ne crois pas du tout au Père Noël. Vous voyez, et je pense que certaines de ces petites choses de Noël qu'ils font sont ridicules. Mais je pense qu'ils ont enlevé de Noël tout ce qui est de Christ et l'ont remplacé par Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est une histoire inventée, j'espère bien ne blesser personne. Je pense aux enfants, mais je vais vous dire une chose. Ici, il n'y a pas longtemps, il y a environ 25 ou 30 ans, un pasteur de cette ville, le pasteur d'une grande église dans cette ville, que je connaissais vraiment très bien, un des amis d'enfance, vint vers moi. Et Charlie Brannon, frère Mike, vous vous souvenez de Charlie Brannon, un de mes bons amis, il était assis dans son bureau et il dit, « Je ne dirai jamais plus à mes enfants ce mensonge, et je ferai en sorte qu'on ne le dise pas non plus à mes petits-enfants. » Il ajouta, « Mon propre petit garçon vint vers moi un jour, juste après ses 12 ans, et nous avons parlé du Père Noël. Et je dis, « Chérie, j'ai quelque chose à te dire. » Vous savez, j'ai commencé à lui raconter ce qu'il en était de lui. Puis après cela, il dit, « Alors, papa, ce Jésus est-il le même, la même chose? Dites la vérité. Le Père Noël est une invention catholique. Au sujet d'un certain Kris Kringle, ou Saint Nicolas, un ancien saint allemand catholique qui allait partout en faisant du bien aux enfants, et l'ont perpétué sous forme de tradition. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est réel et il vit. Maintenant, voici une question, la dernière, qui est très... Remarquez, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi sur ce sujet. Mais si c'est effectivement le cas, rappelez-vous de le faire amicalement, voyez-vous. Je vous aime et je n'aimerais pas vous blesser. Je veux être franc. Si je ne le peux pas, si je dis un mensonge à mon fils, alors je suis un menteur, vous voyez. Je désire lui dire la vérité. Alors, au sujet de Père Noël, je lui dirai, oui, bien sûr, il y a un Père Noël. Observe bien papa le soir de Noël. Vous comprenez? Oui. Vous savez, l'autre jour, j'étais par ici, et je dis la même chose à une petite fille, simplement pour voir. Avant-hier, on m'a rendu la monnaie de ma pièce. J'étais dans l'édifice, et elle se trouvait à la Quaker Maid. Et j'allais dans ce magasin pour acheter de l'épicerie. Donc, ma femme et moi étions là. Et il y avait une petite fille d'environ 18 mois, qui chantait « les cloches sonnent » à sa façon, vous savez, assise à l'arrière du petit chariot. Je lui dis « Attends-tu le Père Noël ?»« C'est mon papa, monsieur, » répondit-elle. Je lui dis « Que ton petit cœur soit béni, ma chérie, tu as du bon sens. » Maintenant, voici une véritable colle, mes amis, et puis je terminerai. Oh, c'est un admirable passage de l'Écriture, mais il semble que c'est une colle pour tout le monde. Cela a été une énigme pour moi pendant des années, et c'est seulement par la grâce de Dieu et ma chère femme assise là-bas dans le fond, quand elle a appris que j'avais cette question cet après-midi, elle me dit, « Bill, comment vas-tu répondre à cette question ?» Elle ajouta, « J'ai toujours été curieuse de le savoir moi-même. » Je n'ai jamais pu le comprendre. Je lui dis, « Viens ce soir, chérie, je ferai de mon mieux avec l'aide de Dieu. » Frère Branham, expliquez s'il vous plaît, Hébreux 6, 4 à 6. À un moment donné, vraiment, vous voyez maintenant, vous devrez veiller à ce qui se rapporte à notre foi, à la grâce, à la sécurité des croyants, à la persévérance des saints. Hébreux, au Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Maintenant, aussitôt que ceci sera fini, alors j'espère que Dieu m'aidera à vous le faire comprendre bien clairement. Excusez-moi, j'ai mon message pour ce soir. Peut-être prêcherai-je la même chose demain matin au service, puis je m'en irai. Maintenant, ceci est une véritable colle, vous voyez. Faites donc bien attention, rappelez-vous ceci. Nous croyons et enseignons dans cette église que tous ceux qui viennent et crient, tous ceux qui parlent en langue, tous ceux qui serrent la main du prédicateur n'ont pas forcément la vie éternelle. Mais nous croyons que si vous avez la vie éternelle, si Dieu vous a donné la vie éternelle, vous l'avez pour toujours. Vous voyez? Parce que regardez, s'il en était autrement, Jésus serait un faux docteur. Dans Jean 5, 24, il dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Maintenant, argumentez avec lui. « Tout ce que le Père m'a donné, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Je cite l'Écriture. « Tous ceux qui viennent, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Et tous ceux que mon Père m'a donnés viendront à moi. Vous voyez? Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle, Jean 6, et je les ressusciterai au dernier jour. Ce sont ces paroles. Maintenant, regardez. Si vous revenez au premier chapitre des Éphésiens, où Paul prêche, or, chez les Corinthiens, chacun avait une langue, un cantique. Vous remarquerez que dans les autres églises, n'ont pas eu ce problème. Il n'a jamais rien dit à ce propos. A-t-il une fois fait mention des langues dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Rome? Non. Comme les Corinthiens, ils avaient des langues et tout le reste, mais ils avaient mis chaque chose à sa place. Les Corinthiens n'arrivaient pas à mettre de l'ordre dans cela, vous voyez, mais Paul y alla et mit l'Église en ordre. Je crois, comme dit Oral Robert, que Dieu est un Dieu bon. Ne le croyez-vous pas? Et vous dites, bon alors, qu'en est-il des pentecôtistes au sujet des langues, frère Branham? Je pense qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Certainement qu'ils l'ont reçu. Très bien, mais pourquoi? Regardez, vous croyez qu'il est un Dieu bon? Thomas a dit une fois, tu sais Seigneur, tous les autres croyaient en lui. Ils disaient, oh, nous savons qu'il est réel. Oh, dit Thomas, non, non, je ne le crois pas. Pour que je le croie, il faut que j'aie une preuve. Il faudrait que je puisse mettre mes doigts dans son côté et dans les marques des clous dans ses mains. Il est un Dieu bon. Il a dit, avance-toi Thomas, tu as ce que tu veux. Oh, dit Thomas, maintenant je crois. Jésus dit, oui Thomas, après m'avoir vu et m'avoir touché et mis ta main dans mon côté, tu crois. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui pourtant croient. Il est un Dieu bon, bien sûr. Il accorde à votre cœur ce qu'il désire. Croyons en lui, simplement. C'est cela, le coup mortel asséné à Satan, quand un homme prend Dieu au mort. Frère, cela tuera Satan chaque fois. C'est le coup le plus dur que Satan puisse recevoir quand un homme prend Dieu à sa parole. Comme je l'ai dit l'autre soir, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, remarquez ceci. Je vais donc commencer au premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Maintenant, la première chose que je désire que vous sachiez, à qui Paul parlait-il ici? Aux Hébreux. C'est à eux qu'est destiné l'enseignement du livre aux Hébreux. Est-ce juste? Les Juifs qui avaient rejeté Jésus. Comprenez-vous maintenant? Il parle aux Juifs, leur montrant que l'ombre de la loi est une préfiguration de Christ. Toutes les choses anciennes ne sont qu'une préfiguration des nouvelles. Maintenant observez, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ainsi, il aura parlé des doctrines, continuons et parlons maintenant des choses parfaites. Or, vous êtes rendus parfaits en Dieu quand vous êtes scellés par le Saint-Esprit, jusqu'au jour de votre rédemption. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean. Il ne peut pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, non pas celui qui pense qu'il en est rempli, mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu, ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu est en lui et ne peut pas pécher. Vous voyez? La Bible ne dit-elle pas cela? Ainsi, c'est cela. Vous êtes, ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que le monde pense de vous, c'est ce que Dieu pense de vous. Vous voyez? Vous ne pouvez pas, comment puis-je avoir un ordre écrit par le maire de la ville, m'autorisant à faire 60 km à l'heure dans la ville, et être arrêté par un agent? Ce n'est pas possible. Comment puis-je pécher quand il y a constamment un sacrifice sanglant devant Dieu qui fait qu'il ne peut même pas me voir, et quand il y a un pare-choc entre Dieu et moi, un bouclier de sang? Car nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Amen. Comment au monde pouvez-vous faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu? Si nous péchons volontairement, Hébreux 10, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Comme vous voyez ici, il est impossible de pécher volontairement. Maintenant, continuons à lire. Très bien. À ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Maintenant, voici où je vais commencer au 4e verset. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il semble que, suivant la façon dont vous lisez cela, un homme pourrait recevoir le Saint-Esprit, puis rétrograder, être perdu. Mais il est impossible de le faire. Vous voyez, il ne peut pas le faire. S'il le faisait, Christ aurait menti. Vous voyez, c'est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Madame, fais bien attention à ceci. À qui parle-t-il? Il parle à ces juifs limitrophes. Il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'un homme rempli du Saint-Esprit. Il dit seulement s'il a goûté la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner une parabole pour que vous puissiez bien comprendre cela et ne pas le manquer. Il écrit donc à ces juifs. Certains d'entre eux sont des croyants limitrophes. Vous voyez, il dit, maintenant nous allons laisser de côté ces œuvres et continuer pour parler de la perfection. Il dit, nous avons donc parlé des baptêmes, de la résurrection des morts, de l'imposition des mains et de toutes ces choses, mais avançons maintenant et parlons de la perfection. Nous allons parler du moment où vous entrez dans le Saint-Esprit. Cela fait maintenant longtemps que vous êtes là à tourner autour de ces réunions. Vous avez vu ces gens, ils se tiennent là autour, ils ne veulent ni entrer ni sortir. Ils apprécient le Saint-Esprit. Ils viennent voir, peut-être le Saint-Esprit fera-t-il quelque chose, et alors ils se lèveront et pousseront des cris, ils sauteront, mais ils ne veulent pas personnellement le recevoir. Non, non, vous voyez. Et ils diront, oh oui, c'est très bien, mais je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Vous voyez, ce sont des croyants limitrophes, se tenant assez près pour pouvoir goûter à cela. Mais cependant, ils ne le reçoivent pas, vous voyez. Ils restent là autour un certain temps, jusqu'au jour où ils dérivent complètement et s'en vont. Je pourrais citer les noms de beaucoup de gens qui étaient au tabernacle et qui ont fait la même chose. S'ils retombent, ils ne peuvent être renouvelés et amenés à la repentance. Il n'y a plus de repentance pour eux. Ils ont attrité l'esprit au point de l'éloigner d'eux. Ils en avaient été si près qu'ils... Voilà, si vous voulez prendre avec moi, je sais que vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, mais si vous prenez le premier chapitre du Deutéronome et que vous le lisez, vous y trouverez la même chose. Inscrivez-le maintenant. C'est donc le premier chapitre du Deutéronome. Et vous commencez à lire au verset 19 jusqu'au verset 26. Deutéronome, vous trouverez... Maintenant, regardez. Tout Israël, que font ces gens? Ils arrivent à Kadesh-Barnéa. Oh, je vois quelque chose. Ce tabernacle, ce monde post-cotiste, est à Kadesh-Barnéa en ce moment même. Exactement, frère Neville. Nous sommes à Kadesh-Barnéa, le siège du jugement de ce monde. C'était le siège du jugement. Et les espions sortirent. Jésus a dit, maintenant, j'ai envoyé des espions. Ou plutôt, c'est Moïse qui dit, j'ai envoyé des espions, 12, un homme de chacune de vos tribus. Je les ai envoyés pour espionner le pays et faire un rapport. Est-ce vrai? Et quand ils revinrent, 10 d'entre eux dirent, oh, c'est un bon pays, mais oh, miséricorde, nous ne pouvons pas nous en emparer. Oh, les Amoréens sont là, et nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux. Ce sont des hommes armés, leurs murailles sont élevées. Oh, c'est trop, j'aurais souhaité que nous mourions là-bas en Égypte, au lieu d'être amenés ici par toi. Alors le bon Dieu Caleb et Josué sautèrent sur leurs pieds et les apaisèrent, disant, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Amen. Oui, monsieur, lui a compris. Maintenant, regardez, qu'est-il arrivé? Caleb et Josué savaient que Dieu le leur avait promis. Je ne me soucie pas de sa grandeur ni du nombre d'obstacles à surmonter, ni de leur taille, de leur importance, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, et nous pouvons nous en emparer.
Amen.
Et savez-vous qu'ils furent les deux seules personnes sur les 2,5 millions à pouvoir rentrer dans ce pays? Parce qu'ils maintèrent leur foi en ce que Dieu avait dit, et qu'ils savaient être la vérité. Amen.
Amen.
Ce tabernacle, en ce moment même, est à Kadesh-Barnéa. Regardez, ces gens étaient si proches qu'ils ont pu même goûter aux raisins provenant de ce pays. Ils mangèrent de ces raisins. Quand Caleb et les autres partirent et ramenèrent les raisins, ces gens prirent quelques-uns et les mangèrent. Oh, ils sont bons, mais nous ne pouvons pas faire ces choses. Ceux qui ont goûté aux bonnes œuvres de Dieu, qui ont goûté au Saint-Esprit et ont éprouvé sa bonté, ceux qui ont goûté à la parole de Dieu. Vous voyez cela? Aucun de ces hommes, pas un seul d'entre eux, ne fut autorisé à passer dans le pays. Ils périrent dans leur propre pays, là-bas dans le désert. Ils n'y entrèrent jamais, pourtant ils étaient assez prêts pour y goûter. Mais ils n'avaient pas suffisamment de grâce et de foi pour s'en emparer. C'est cela. Maintenant, écoutez, vous, chères personnes qui avez écrit cette lettre. Lisons le verset suivant. Soyez attentifs une minute. Écoutez Paul. Lisons verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Voyez-vous ce qu'il dit? Maintenant observez. Il y avait cette question ici, et puis nous terminerons. Cette chose m'a tourmenté pendant des années. Une fois, je suis allé à une rencontre à Mishawaska, dans l'Indiana, où les gens parlaient en langue. Maintenant, je suis devant mes propres fidèles. Vous m'avez entendu raconter l'histoire de ma vie, et au sujet de cet homme de couleur qui disait « Le voilà, c'est lui !» Je l'ai déjà rencontré. Mais voici la suite. Je vis deux hommes. L'un donnait un message et l'autre l'interprétait. L'autre donnait un message et le premier l'interprétait. Et frère, c'était exact. Je pensais, mon Dieu, je n'ai jamais rien vu de semblable. Je dis, je suis parmi des anges. Je pensais, je n'ai jamais rien vu de pareil. L'un parlait et l'autre. J'étais assis dans le fond avec un bon vieux prédicateur, vous savez. Je désirais rencontrer ces deux hommes et leur serrer la main. Je n'avais jamais vu de tels hommes de ma vie. L'un donnait un message et l'autre l'interprétait. Oh, c'était extraordinaire. L'un parlait, l'autre interprétait. Tous les deux, et quand ils levaient les mains, devenaient blancs comme de la craie. Je pensais, oh, où donc ai-je été toute ma vie? C'est cela, le vrai. Je disais, les pentecôtistes ont raison. Exactement. Je n'avais jamais vu grand-chose, sauf ce que passait par là autour. Ce que je voyais, c'était peut-être deux femmes dans une mission quelque part qui se disputaient, l'une appelant l'autre, perchoir abuse, etc. Vous savez, se disposant comme cela. Je ne dis pas cela maintenant pour dire du mal des femmes, mais ça laisse simplement assez mal par ici. Si quelqu'un parmi vous, vous vous souvenez, frère Graham, vous n'étiez qu'un petit garçon à l'époque, il en était ainsi. Alors j'écoutais cela et je pensais, oh, j'ai rencontré des anges. Le lendemain, je rencontrai un de ces hommes au coin de la maison. Je lui dis, bonjour monsieur. Il dit, bonjour, comment vous appelez-vous? Je répondis, Branham. Il dit, d'où êtes-vous? D'ici? Je répondis, non, je suis de Jeffersonville. Il dit, ah, très bien. Êtes-vous un pentecôtiste? Je dis, non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec les pentecôtistes sur la façon de recevoir le Saint-Esprit. Cependant, je suis ici pour apprendre. Il dit, bon, c'est très bien. Et en lui parlant, j'ai contacté son esprit, comme la femme au puits. C'était un vrai chrétien. Je veux dire, frère, il avait l'air très bien. C'était quelqu'un de bien. Maintenant, vous tous, combien ont été dans mes réunions en vue ces choses arriver? Vous voyez, eh bien, cet homme était tout à fait bien. Alors je pensais, voilà, oh, comme c'est merveilleux. Ce même jour, vers le soir, je rencontrais l'autre. Je lui dis, bonjour monsieur. Il dit, bonjour. Comment vous appelez-vous? Et je lui dis. Il demanda, êtes-vous un pentecôtiste? Je répondis, non monsieur, je ne pense pas que je sois exactement un pentecôtiste. Je suis venu ici pour apprendre. Il dit, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Je répondis, je ne sais pas. D'après ce que vous avez tous, je pense que je ne l'ai pas. Elle dit, avez-vous déjà parlé en langue? Je dis, non monsieur. Il dit, alors, vous n'avez pas reçu? Je dis, eh bien, je pense que c'est juste. Je dis, je ne sais pas. Cela fait simplement 2 ans ou moins que je prêche et je ne connais pas beaucoup de choses à ce sujet. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre. Je disais cela car j'essayais de le retenir, vous voyez, pour contacter son esprit. Et lorsque j'y parvins, je compris que si jamais j'avais rencontré un hypocrite, celui-là en était bien un. Sa femme était une noiraude et elle vivait avec une femme blonde, dont il avait eu 2 enfants. Elle parlait en langue et il l'interprétait tout à fait parfaitement. Et je dis, maintenant Seigneur, dans quoi me suis-je engagé? Après avoir cru être parmi des anges, je ne savais pas dans quel milieu j'étais tombé. Je dis, je suis un fondamentaliste. Cela doit être conforme à la Bible, cela doit être juste. Mais il y a quelque chose de faux quelque part, Seigneur. Comment est-ce possible? J'allais à la réunion ce soir-là et cet esprit est descendu. Et frère, vous pouviez le sentir. C'était bien le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Si ce n'est pas lui, il rendait pourtant témoignage à mon esprit que c'était le Saint-Esprit. Je n'étais qu'un jeune prédicateur, je ne connaissais pas beaucoup au sujet du discernement des esprits, mais j'étais assis là et je connaissais le Dieu qui m'a sauvé. C'était le même sentiment. Je me sentais comme si j'allais passer à travers le plafond. Il y avait une telle atmosphère dans cette salle. Il y avait là environ 1500 personnes et je pensais, oh là là, deux ou trois groupements s'étaient rencontrés. Je pensais, ça alors, comment est-ce possible? Ce glorieux esprit est en train de descendre maintenant dans cette salle et regarde par là ce qui se passe. Ces hommes parlent en langue, interprétant, donnent des messages de façon parfaite et néanmoins, l'un d'eux est un hypocrite alors que l'autre est un véritable homme de Dieu. Et je pensais, eh bien, immédiatement après cela, un de mes bons amis, frère Davis, vous le connaissez, commence à dire que j'étais une marionnette. C'est un jouet de fille, vous savez. Et ainsi, j'étais célibataire. Ainsi, il commence à me critiquer en quelque sorte et à se moquer de moi. Votre mère et nous tous, nous avions de petites réunions à différents endroits dans les environs. Le tabernacle n'était pas en service à ce moment-là et nous avions de petites réunions à différents endroits. Un jour, finalement, après que le tabernacle ait été construit, plusieurs années plus tard, je suis allé à ma caverne à Green's Mill pour prier, parce que frère Davis avait dit des choses horribles sur mon compte dans son journal. Je l'aimais, je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit, et je suis allé là-bas pour prier pour lui. J'allais donc là-bas dans ma caverne, et j'y restais environ deux jours. Je dis, « Seigneur, pardonne-lui, il ne pense pas à ce qu'il dit. » Et je disais, « Tu sais, un passage de l'Écriture me vint subitement à l'esprit. » Et je sortis. Il y avait un tronc d'arbre, ce tronc s'y trouve toujours, j'y étais il n'y a pas longtemps. Il était tombé de la montagne, était en travers d'un petit chemin qui venait du ruisseau. Je m'assis à califourchon sur ce tronc, regardant les montagnes au loin, et je posais ma Bible comme ceci. Je pensais, tu sais, je me remémorais un passage de l'Écriture, le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Et il dit des choses, vous savez, je pensais, je crois que je vais lire ce passage. J'ouvris la Bible et dis, eh bien... Je m'essuyais le visage, et alors que le vent soufflait, il tourna les pages de ma Bible jusqu'au chapitre 6 des Hébreux. Eh bien, dis-je, ce n'est pas là que cela se trouve. Et je la reposais comme ceci. Le vent souffle à nouveau, et l'ouvrit la même page. Je dis, mais c'est étrange que le vent l'ouvre de nouveau la même page. Je pensais alors, eh bien, je crois que je vais le lire. Elle était dit ceci, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, je pensais bien, je ne vois rien de spécial là-dedans. Je continue à lire le reste du chapitre, rien de particulier là-dedans. Je dis, alors bien, quant à cela, c'est réglé. Mais je vis que cela faisait comme ceci, elle était ouverte de nouveau au même endroit. J'ai saisi ma Bible en me disant, eh bien, qu'est-ce que cela? Et je me remis à lire et à lire. Je dis, eh bien, je ne peux pas comprendre. Puis je continuais et je lus. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Puis j'arrivais à un passage où il est dit, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Je dis, « Je me demande ce que cela signifie. » Or, je n'avais rien dans la pensée alors que j'étais là-bas. Mais juste pendant que j'étais assis là, je pensais que le Seigneur me donnerait une vision sur leur frère Davis et les autres. Alors que j'étais assis là, je regardais, je vis quelque chose tourner à travers la vallée devant moi. Et c'était le globe terrestre qui tournait. Je vis qu'il était défoncé, il ressemblait à un champ labouré. Et un homme avançait avec une grande chose pleine de semences devant lui. Elle lançait la semence sur toute la terre en avançant. Il s'en alla en suivant la courbure de la terre et je le perdis de vue. Aussitôt que je l'eus perdu de vue, un homme à l'air sournois et habillé de noir vint allant de ci de là faisant, en jetant de mauvaises semences. Je l'observais et comme la terre continua à tourner, un moment après du blé germa et en même temps que le blé sortirent de terre des ronces, des chardons, des épines, des daturas, des laiterons et tout cela poussait en même temps dans le blé. Elle croissait ensemble. Elle vint une sécheresse vraiment terrible. Et le petit blé penchait la tête comme cela. Et les petites ronces, les chardons, les épines penchaient aussi leur tête. Chaque mauvaise herbe haletait comme cela. Vous pouviez les entendre. Elle demandait de la pluie et encore de la pluie. Un moment après, un gros nuage apparut. Et l'eau se déversa à flots. Lorsqu'elle atteignit la terre, le blé redressa la tête et commença à s'exclamer, « Gloire à Dieu! Alléluia! Loué soit le Seigneur !» Le datura redressa la tête et s'exclama, « Gloire à Dieu, loué soit Seigneur, alléluia. Les épines et toutes les autres se mirent à danser dans le chant en disant, gloire à Dieu, alléluia, loué soit le Seigneur. Je dis alors, je n'arrive pas à comprendre cela. La vision disparut. Je retombai alors sur cela. Mais c'est le produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est près d'être maudite. Alors je compris. Jésus dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Un homme peut venir aux réunions, parler en langue, pousser des cris, agir comme tous les autres par l'authentique Saint-Esprit, et pourtant ne pas être dans le royaume de Dieu. C'est parfaitement vrai. Jésus n'a-t-il pas dit en ce jour, beaucoup se tiendront là et diront, Seigneur, n'est-ce pas chassé les démons en ton nom, n'est-ce pas prophétisé, prêché en ton nom, n'est-ce pas accompli des œuvres puissantes en ton nom? Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Qu'en dites-vous? Voici exactement ce que cela signifie. Vous voyez, ils ont goûté à la bonne pluie venant du ciel. Mais dès le commencement, ils étaient injustes. Dès le commencement, leurs objectifs n'étaient pas justes. Leurs motifs n'étaient pas justes. Vous savez que les serviteurs dirent, « Devons-nous aller tous les arracher ?» Il répondit, « Laissez-les croître ensemble. Et au jour de la moisson, ces épines et ces ronces seront brûlées ensemble et le blé sera engrangé. » Maintenant, comment allez-vous faire pour distinguer ce qui est une épine ou ce qui est un chardon de ce qui est du blé? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, frères et sœurs, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Quelque part sur la route, peu importe, cela va vous rejoindre. Ainsi, vous qui recherchez le baptême du Saint-Esprit, je suis heureux que quelqu'un ait écrit cela. Vous voyez, or, quant à ces croyants limitrophes, ils étaient avec les autres. Ils étaient circoncis de leur circoncision. Ils sont allés directement vers la terre que Dieu leur avait promise, jusqu'à la frontière de celle-ci. Beaucoup sont venus jusqu'à cette frontière. Ils iront directement jusqu'au baptême du Saint-Esprit, mais une fois là, ils le rejettent. Ils ne veulent pas s'abandonner. Ils iront directement jusqu'au baptême scripturaire au nom de Jésus-Christ, puis une fois là, ils lui tournent le dos et le rejettent, de peur qu'il n'ait à le considérer. Il n'y a pas un seul passage dans toute la Bible où une fois quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas un seul passage. C'est l'Église catholique qui a commencé de le faire ainsi, puis cela se développa avec Luther, puis avec Wesley, et finalement c'est parvenu jusqu'ici. La vérité même. Mais l'ordre scripturaire est de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela le baptême apostolique. Vous ne pouvez pas faire cela et demeurer dans une dénomination. C'est vrai. Maintenant, vous comprenez ces choses? Le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, les choses que Dieu produit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la longanimité. On vous dit, mes frères Branham, Dieu soit béni, je suis patient. Il semble que ce soit ainsi. Je suis allé dans l'Ohio il n'y a pas longtemps et quelqu'un m'écrivait une lettre me demandant si je baptisais les gens au nom de Jésus-Christ. Je ne répondis pas un mot, mais ils le surent quand même, et 16 pasteurs qui coopèrent avec moi se retirèrent. C'est cela avoir de la longanimité, n'est-ce pas? La longanimité, la bonté, la douceur, la bénignité, la patience et le Saint-Esprit. Vous voyez, oh frères et sœurs, nous sommes à Kadesh Barnea. Vous êtes en train de goûter maintenant. Hier soir, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Il est venu en nous comme un vent impétueux. Il est demeuré sur beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu ont visité des foyers ici et là, imposant les mains et priant pour ceux qui recherchaient le Saint-Esprit. N'acceptez pas d'imitation. N'acceptez pas un certain bruit. N'acceptez pas une certaine sensation. Vous attendez là jusqu'à ce que Dieu vous ait modelé et fait de vous une nouvelle créature.
Amen.
Qu'il ait fait de vous une nouvelle personne. Vous y goûtez maintenant, vous ne faites qu'y goûter, mais laissez la colombe vous conduire directement à la table. Et l'agneau et la colombe s'attireront ensemble et participeront éternellement au festin de la parole de Dieu. Car elle demeurera. Quand les cieux et la terre auront passé, la parole de Dieu demeurera. C'est vrai. Je vous en prie, ne croyez pas que je sois intransigeant. Si je l'ai été, je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'espère avoir répondu à ces questions, je l'ai fait au mieux de ma connaissance. C'est ainsi que dans le chapitre 6 des Hébreux, si vous voulez le voir, Paul parle aux Hébreux qui lui avaient dit, « Eh bien, nous irons avec toi jusqu'à tel point. » Ils viendront, vous voyez, ceux qui sont venus et qui ont goûté. Je viens juste de regarder dans la salle pour vous montrer l'évidence d'un Dieu vivant. J'espère que je ne rends pas cette personne mal à l'aise en attirant l'attention sur elle. Il n'y a pas longtemps, en revenant d'une réunion, je suis venu ici et je vous ai annoncé qu'un de mes très bons amis, un compagnon de chasse, un homme qui avait été bon pour moi, un homme qui était venu dans mon église et avait été mon frère, je l'appelais Bastille. Son nom était Everett Rogers. Il habitait Milton. Combien d'entre vous se souviennent que je suis venu le leur annoncer? Il était ici à l'hôpital, les chirurgiens l'avaient opéré et il l'avait ouvert, mais il était tellement cancéreux qu'ils le recousirent. Il disait, il va rapidement baisser, il sera parti dans quelques semaines, c'est tout, ce sera sa fin. Vous vous souvenez comment, debout sur ce podium, j'ai prié pour lui. Je suis allé là-bas dans la chambre, quelque chose me dévorait le cœur. J'entrais dans la chambre et aussitôt que j'eus fait sortir tout le monde pour pouvoir, frère Everett était attendu là. Et vous vous rappelez de ceci, j'entrais et je dis, frère Bastille, je l'appelle Bastille. Il y a longtemps, lorsque nous nous tenions des réunions sous la tonnelle, tous les méthodistes là-bas sur la colline, Gertie était l'un d'eux, se faufilaient là tout autour, regardant furtivement au travers des grappes de la tonnelle, pour voir ce que j'allais dire, agissant ainsi par crainte que l'église méthodiste ne les excommunie. Et puis, je suis allé et j'ai eu une vision là, je vis de la viande entassée dans une boîte de conserve. J'attrapai une poignée de poissons et je les réunis ensuite par une ficelle que j'attachais. Quand je regardais, tout cela se trouvait dans cette vision. Je laissais un groupe de gens sous la tonnelle et je montais au sommet de la colline chez le frère Wright. Et le lendemain matin, ils ne purent pas me trouver. Je dis, qu'aucun de vous, pendant que je prêchais, cette lumière est venue. Cette colonne de feu se tenait là, devant moi. Elle me dit, quitte ce lieu et va dans la forêt, je te parlerai. Ce fut ce même jour, le lendemain, qu'ils m'ont trouvé sur la colline. J'étais monté, j'avais caché ma voiture dans les herbes. J'étais demeuré sur une montagne priant toute la nuit et tout le lendemain. Quelques-uns d'entre eux montèrent et découvrirent la voiture et ils parvinrent ici. Ce fut le jour où frère Graham Snelling, ici présent, reçut le Saint-Esprit et l'appel au ministère. Là-haut sur la colline où je me trouvais, il me dit de faire différentes choses et quelles seraient les relations que nous aurions ensemble. Il m'a donné la vision de tous ces poissons attachés et il dit, ceci est ton église de Milltown. Et quatre ou cinq de ces poissons sont détachés. Je dis, qui sont-ils? Il dit, l'un d'eux est Guy Spencer et sa femme. L'autre est un autre Spencer et les siens. Elle me nomma les autres qui partiraient. Je leur dis, qu'aucun de vous ne mange. Ma femme et moi n'étions pas, c'était avant que nous soyons mariés. Elle rentre à la maison et passa toute la nuit avec Sir Spencer, une femme extraordinaire. C'est un homme merveilleux, Guy Spencer. Il n'y a pas de meilleur homme au monde. Elle descendit là-bas et au pas dit, maintenant regardez. Elle dit à Meda, maintenant Meda, je crois, frère Bill. Mais quand hop à la fin, il faut qu'elle ait du jambon et des œufs. Ainsi elle va là-bas, fait frire ses œufs au jambon, puis elle s'assied, commence à rendre grâce. Mais finalement elle se pencha sur la table en pleurant, ne pouvant pas y toucher. Puis ils allèrent à ma recherche. Là-haut sur la colline, il me dit ce jour-là exactement ce qui arriverait. Il dit, ceux qui partiront, ensuite ceux-là. Mais il y avait une grande quantité de viande de conserve. Il dit, garde ceci pour plus tard, pour les gens de Milltown. Et l'autre soir, quand j'ai entendu frère Creech, il était assis ici hier soir. Frère Creech, êtes-vous ici ce soir? Quand frère Creech me téléphona, alors que Sir Creech pleurait à côté de son père, qui était étendu là, il dit, frère Bill, ne lui dites pas, il est en train de mourir. Il est rongé par le cancer, les chirurgiens l'ont opéré, et les cancéreux au dernier degré. Et Will Hall, vous vous souvenez tous de lui? Quand le même docteur l'opéra, il était tellement miné par le cancer. Ce matin-là, je commençais par aller à la chasse aux écureuils, et je vis des pommes suspendues dans la chambre. Vous vous ratez l'histoire? Et cet homme est vivant aujourd'hui. Il y a des années de cela, lui et frère Bastille étaient des amis. Et j'allais à l'hôpital, le nouvel hôpital. J'ai oublié son nom, c'est là-bas, à New Albany, le nouvel hôpital. Et je me rendis là-bas pour voir Bastille. Quand j'entrais dans la chambre, je dis, frère Bastille, il dit, frère Bill. Il me donna une franche poignée de main, il était un vétéran de la Première Guerre mondiale. Je ne dis pas parce qu'il est présent, mais c'est le cœur le plus généreux qui ait jamais battu sous une vieille chemise bleue. Il retint ma main dans la sienne. J'étais chez lui, j'ai mangé dans sa maison, dormi dans sa maison, exactement comme si j'avais été son frère. Ses enfants, tous les siens, nous étions comme des frères du même sang. C'était un brave homme. Mais il n'est jamais venu très profondément au Seigneur. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ, mais ce jour-là, que le prédicateur méthodiste dit, quiconque a été baptisé au nom de Jésus-Christ, sortez de ma tente. C'était très bien. George Wright et les autres sortirent. L'après-midi-là, j'allais à Tottenham Ford pour baptiser au nom de Jésus-Christ. Toute son assemblée entra dans l'eau, elles furent baptisées au nom de Jésus-Christ. Aussi continuai-je, c'est étonnant, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous?
Amen.
Je ne sais même pas où cet homme est allé, ni ce qui lui est arrivé. Cependant, j'allais à l'hôpital, Basti était là, étant vu tellement rongé par le cancer, que les docteurs ne voulurent rien faire, si ce n'est de le recoudre. Basti me dit, frère Bill, il y a une raison derrière ceci. Quelque chose est arrivé. Je dis, oui, Basti, je commence à sentir cet esprit qui entrait comme ce vin battu dont je vous parlais. Vous savez, il dit que lorsque je suis entré, il y avait un arc-en-ciel qui éclairait ce coin de la chambre. Un arc-en-ciel est une alliance. L'alliance de Dieu. Dieu a fait une alliance avec moi ce jour-là sur cette montagne. J'ai posé mes mains sur frère Basti, j'ai prié pour lui. Les docteurs dirent, il s'atteindra doucement, il va mourir, il n'y a rien à faire, il tenira dans quelques jours. Et Basti Rogers, il y a de cela des semaines et des semaines et des semaines. Et ce soir, Basti Rogers est assis là au fond de l'église, plus sain et plus vigoureux que je l'ai jamais vu de ma vie. Lève-toi, frère Basti. Le voilà. Donnons tous la louange à Dieu. Ils étaient réunis dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint alors. Maintenant, ce qu'il a fait pour eux ce jour-là, il le fera de même pour vous. Je suis si heureux de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux. Bien que ces gens ne le prétendent peut-être pas, ni ne se vantent d'une gloire mondaine, ils ont tous reçu leur contrôle et ont été baptisés au nom de Jésus. Elles proclament maintenant au près et au loin que sa puissance est encore la même. Je suis fier de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux.
I'm so glad that I can say one of them, hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Maintenant, viens, mon frère, chercher cette bénédiction qui purifiera ton cœur du péché, qui fera sonner les cloches joyeusement et gardera ton âme enflammée. Oh, cela brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à ton saint nom. Je suis fier de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux. Chantons-le. Combien en font-ils partie? Levez la main. Oh mon Dieu. Oh, comme je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Ils étaient réunis dans la chambre, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint. Maintenant, ce qu'il dit pour eux ce jour-là, il le fera de même pour vous. Je suis si heureux de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux. Maintenant, pendant que nous chantons encore ce refrain, j'aimerais que chacun de vous se tourne et serre la main de la personne à côté de lui et dise, « Êtes-vous l'un d'entre eux ?» Vous voyez très bien. N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? Combien voudraient l'être? Levez la main. Très bien. Maintenant, je vais chanter ceci pour vous. Alors, viens, mon frère, chercher cette bénédiction qui purifiera ton cœur du péché, qui fera sonner les cloches joyeusement et gardera ton âme enfermée. Oh, cela brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à ton nom. Je suis heureux de pouvoir dire je suis l'un d'entre eux. Souvenez-vous de ce que la petite fille dit, Pierre, n'es-tu pas l'un d'entre eux? Je suis si heureux, pas vous? Vous savez ce que Pierre dit le jour de la Pentecôte? Ceci est cela. Maintenant, j'ai toujours dit, si ceci n'est pas cela, je suis heureux d'avoir ceci en attendant la venue de cela. C'est vrai, j'en suis heureux. I'm so glad I can say I'm pas merveilleux d'être assis ensemble dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Communion avec l'Esprit, communion sur la base de la parole, parlant des bonnes choses à venir. C'est si bon. Je suis si heureux de savoir cela. Pas vous. N'êtes-vous pas heureux d'être un chrétien? N'êtes-vous pas heureux que vos péchés soient sous le sang? Il viendra de ces jours et nous irons avec lui. Alors pensez-y, la vieillesse nous guidera. Toutes les maladies, toutes les afflictions, toute cette vie mortelle changera. Oh mon Dieu, cela me fait penser à ces chers vieux frères qui étaient ici. Je me souviens, combien se souviennent de Rabbi Larson. Oh, la plupart d'entre vous, je le vois encore accrochant sa vieille canne ici. Elles étaient assis là au fond. Ils chantaient ce petit chant. Un moment, frère Teddy, je veux voir si je peux en trouver le ton. Je ne sais pas. Un heureux lendemain matin, là où des portes de perles s'ouvrent largement, et quand j'aurai franchi ce voile de douleur, je me reposerai de l'autre côté. Un jour hors d'atteint de la race mortelle, un jour Dieu seul sait où et quand, les rouages de la vie mortelle s'arrêteront. Alors j'irai habiter sur la colline de Sion. Ces petits rouages qui tournent en nous, la vue, le goût, le toucher, l'odorat Louis, ces petits sens et rouages qui tournent dans cette vie mortelle, s'arrêteront un jour. Alors moi, moi-même et vous, nous irons habiter sur la colline de Sion. Oh, j'aime cela, pas vous? Savoir que nous avons cette assurance bénie, très bien, combien connaissent notre vieux chant de baptême? Non, nous allons changer. Prenons notre chant d'adieu. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de chagrin et de malheur, il te réjouira et te réconfortera. Prends-le partout avec toi. Prenez le nom de Jésus avec vous. Faites-le en vous en allant. Très bien, tous ensemble maintenant, n'oubliez pas, à 8h demain matin, les cartes de prière seront distribuées pour la réunion. La réunion commencera à 9h30. Je prêcherai à 10h. Le service de prière pour les malades commencera vers 11h. Demain après-midi, demain soir, il y aura un message évangélique au tabernacle. Et demain soir, le baptistère sera disponible pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et n'ont jamais été baptisés. Nous baptiserons les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble maintenant, pendant que nous chantons le plus fort possible.
Frère Basti, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux et reconnaissant à Dieu. Vous savez, il est allé chez le médecin et on m'a dit que le docteur le regarda et ne sut quoi penser. Il ne croyait pas que c'était le même individu. Oh, il n'y a pas de secret sur ce que Dieu peut faire. N'est-ce pas vrai? Très bien. Dans le nom, faites-le retentir.
Le Jésus avec toi. Enfant de grâce, il se réunira et se récompensera. Donne donc parfois avec toi. Précieux nom. Oh, combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom. Oh, combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel.
Très bien, maintenant je remets le service au pasteur. Il ira quelques mois où il demandera à quelqu'un de nous congédier, comme il l'entendra.